Bienvenue à Connaître la suite pour cette édition du 20 mai 2011. Ce soir, on a le plaisir de s'entretenir avec Vincent Gélosseau de l'Institut économique de Montréal et on reçoit également Rénal Duberger. On se retrouve dans deux petites minutes. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Connaître la suite, ici Steve et Danny. Ça va nous faire plaisir d'animer ces deux prochaines heures. Bonsoir Danny.
Salut Steve.
T'as l'air en pleine forme.
Ben oui.
Et ce soir, comme à l'habitude, émission chargée. On va avoir beaucoup de sujets pour vous. Ben en fait, on en a deux. Et trois blocs. C'est ça. Et c'est ça, on va vous entretenir tout d'abord ce soir avec Vincent Gélosseau et on va avoir Rénal Duberger qui va se joindre à nous aux alentours de 20h30, 20h45. Donc si jamais entre-temps notre ami Rénal fait son apparition, ben il joindra peut-être à la discussion. On va débuter à l'instant avec Vincent qui nous a fait le plaisir de casser un peu ce long week-end de congé. Donc Vincent, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonsoir, Vincent.
Bonsoir, Steve. Comment ça va?
Ça va bien. Merci, comme je disais, d'avoir peut-être ralenti tes ardeurs pour profiter de ce long week-end.
Ah ben, je ralentis jamais mes ardeurs. Moi, je suis toujours en train de traiter à faire de l'éducation économique au grand public.
Oui, tu es toujours garde à vous, comme on dit.
Ah, je suis toujours réveillé.
Oui. C'est ça, Vincent. On a orchestré cet entretien suite, premièrement, à une note économique qui est parue dernièrement concernant la privatisation de Post Canada. Et on a dit, ça sera peut-être l'occasion d'élargir un peu le débat aussi sur la privatisation des sociétés d'État en général. Puis on sait que au Québec, on en entend parler dernièrement, surtout par rapport à l'ADQ qui tenait son congrès récemment et qui aussi eux avançaient de leur côté la privatisation de certaines sociétés d'État. Tout d'abord, si justement on parle du cas de Post Canada, qui est le cas que toi et Youri Chassin avaient regardé plus en détail. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par privatisation lorsqu'on utilise le mot justement privatisation?
Ben, la réponse la plus simple, le concept de privatisation, ça revient à étudier les sociétés d'État. Et une société d'État qui est en monopole n'a pas les mêmes incitations concurrentielles que des sociétés privées en marché compétitif. Et notamment, ça veut dire, par exemple, il n'y a pas autant de pression des actionnaires, ils n'ont pas les mêmes incitatifs. Et surtout, encore plus important, il y a aussi beaucoup, quand on regarde les sociétés d'État, généralement, on remarque qu'elles sont moins efficaces, moins productives et offrent un service de relativement moins bonne qualité que le secteur privé. Et donc, souvent, la manière de pouvoir contredire ce problème-là, c'est le concept de privatisation, c'est-à-dire de céder une entreprise d'État, c'est-à-dire, exemple, on va prendre un exemple qu'on parle, Postes Canada ou la SAQ et le céder au secteur privé et mettre cette ancienne compagnie-là en compétition.
Mais est-ce qu'on pourrait arriver aux mêmes fins? Je ne sais pas si on permet justement, on abolit un monopole puis on permet au secteur privé de concurrencer les sociétés d'État ou ça passe obligatoirement par un changement on va dire, de charte de l'entreprise, de passer d'un statut d'entreprise publique géré par le gouvernement à un statut privé?
Tu lèves un point qui est très rarement noté, mais qui est un excellent point. Mais avant de continuer, il y a une chose qu'il faudrait clarifier. Le terme privatisation est utilisé à toutes les sauces.
Oui, bien,
c'est... Nous, on utilise ce terme-là, et c'est un terme fondamentalement mal compris. Premièrement, quand je parle de privatisation, je parle vraiment de céder des entreprises d'État. Donc, on va se donner un exemple concret. SAQ, Hydro-Québec, Loto-Québec, ça, c'est des sociétés d'État. Ça, c'est de la privatisation. Il y en a qui pensent que la sous-traitance, donc exemple, que la STM, disons, Société des Transports de Montréal, se met à sous-traiter l'entretien des autobus au secteur privé, ça, c'est pas une privatisation dans la manière dont je le conçois.
Donc, les
PPP. C'est vraiment de passer la production au secteur privé pour que tes auditeurs soient sur la même longueur d'onde.
Ben, c'est ça, oui.
Puis, il y a une autre chose que les gens notent pas, c'est que le terme privatisation, c'est un terme assez nouveau. En fait, tous les gens avant qui voulaient passer des entreprises au secteur privé, le terme, chez les années 70, c'était dénationalisation. Privatisation, c'est devenu un terme quand on a commencé à faire des ventes d'actions au grand public de ces sociétés d'État-là. Donc,
okay.
Ça, c'est la première chose. Puis pour ta question, s'il est possible d'avoir un monopole en compétition, d'avoir une compagnie publique en compétition avec des compagnies privées, oui. Postes Canada, par exemple, a de la compétition à part des firmes comme FedEx ou UPS ou Deutsche Post qui font compétition pour tout ce qui est les courriels express, les courriers express, les paquets, la logistique.
C'est ça.
Donc, c'est tout à fait possible, mais il y a toujours, quand tu maintiens une société d'État, ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est sans compétition, avec la compétition, tu règles une partie des problèmes, mais regardons juste une première partie d'un problème d'une société d'État. C'est les incitations qu'il y a à l'intérieur d'une société d'État. Premièrement, étant une entité politique, il y a une intervention du politique. Donc, définitivement, par exemple, la nomination de l'équipe de management peut être faite pour des raisons politiques et non pas sur la base de la profitabilité.
C'est ce qu'on dit des fois, là, et puis je veux pas te porter de mauvaises intentions, mais on appelle ça les amis du parti, là.
Ça peut être ça. Ça peut être entre autres ça. Et donc, choisi sur la base d'une nécessité politique davantage que sur la base d'une nécessité économique. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'une entreprise qui appartient à l'État, imaginons Postes Canada aujourd'hui, puisque c'est l'exemple avec lequel on a commencé pour illustrer, Postes Canada, le risque qu'elle fasse faillite est assez limité. Et si vraiment la situation financière de Postes Canada devait se détériorer dramatiquement, le gouvernement ne laissera jamais la société aller en faillite. Donc, il n'y a pas cette incitation-là qui existe sur n'importe quel actionnaire, n'importe quel dirigeant d'entreprise dans le secteur privé. L'incitation de faire face à la faillite, donc d'améliorer l'investissement. Maintenant, ça, c'est, on parle d'un monopole en situation de compétition, mais c'est encore pire quand c'est en situation de non-compétition.
Oui, tout à fait.
Où vraiment, là, t'as pas d'incitation à baisser les prix, à être plus plus efficace.
C'est ça. Puis, quand on lit votre papier, il y a beaucoup le principe d'efficacité qui semble pas être présent, là. Surtout quand on parle de Postes Canada.
Exactement. Par exemple, Postes Canada, puisque c'est l'exemple avec lequel on est, Postes Canada a besoin de faire énormément d'investissements pour se mettre à jour. Sa main-d'œuvre est peu productive, probablement parce que, pour chaque heure payée, il y a juste 38 minutes qui sont effectivement travaillées. Donc ça veut dire qu'ils travaillent juste 64% du temps pour lequel ils sont payés. Ça veut pas dire que c'est des paresseux, là. N'importe qui aime travailler, puis tout le monde se valorise à partir du travail. Mais un monopole, par exemple, n'aurait pas la tendance, une société publique n'a pas les mêmes incitations à mieux organiser le travail. Donc, par exemple, les facteurs avec Postes Canada peuvent perdre énormément de temps dans le triage du courrier. Ça peut être quelque chose d'aussi ridicule que ça qui fait justement perdre du temps de travail à ces gens-là. Donc, on n'obtient pas de la valeur pour le temps de travail. C'est ça la question de la productivité. Mais une autre chose qui n'est pas mentionnée, quand on parle de monopole, une société d'État, il y a aussi quelque chose d'autre que les gens notent pas souvent. C'est souvent, tu sais, bon, on a parlé de la faible productivité, des coûts élevés, mais il y a peu de gens qui remarquent aussi des fois que ces entreprises-là font souvent des investissements qui sont pas nécessairement rentables.
Ils ouais, ont tout à
grosse,
fait.
Ils utilisent énormément de capital, donc de l'argent qui pourrait servir à financer des petites entreprises ou d'autres entreprises qui font de l'investissement. Et ils investissent beaucoup dans des trucs peu efficaces. Puis on peut se déplacer pour voir un exemple concret. Ça serait avec se déplacer sur l'exemple d'Hydro-Québec. Hydro-Québec, la Romaine, c'est un barrage qui est construit au Québec pour une nouvelle source d'électricité, mais quand on regarde le coût par mégawattheure, c'est-à-dire par unité d'énergie qui va être générée, ça coûte 5,3 millions. Et Claude Garcia, qui est un économiste, qui est un actuaire et qui est aussi chercheur associé à l'Institut économique, avait justement noté que comparativement au secteur privé, si c'était 5,3 millions pour Hydro-Québec, c'était 2,6 millions pour des projets de la même envergure dans le secteur privé. Donc, souvent, ils vont faire des surinvestissements, ils vont très mal utiliser le capital et ils vont faire énormément d'investissements qui ne sont pas nécessairement rentables. Donc, les monopoles ont toute cette structure-là de faible productivité, de mauvaise utilisation des ressources, de prix plus élevés ou de gaspillage, oui, tout simplement, qui est passé aux consommateurs sous une forme ou une autre de gaspillage.
Mais justement, en tout cas, je regarde ça d'un point de vue assez critique parce que le papier que vous avez écrit, bon, relève, comme on a dit, beaucoup d'inefficacité au niveau de Post Canada. Comme tu dis, les investissements qui sont pas toujours faits de façon judicieuse. C'est quoi? Je veux dire, on n'aurait pas avantage justement à défaire le monopole, laisser une entreprise privée demain matin prendre peut-être le marché, peut-être voire même l'entièreté du marché, au détriment d'aller vers une privatisation d'une société qui est hyper ankylosée, qui est pas efficace, parce que je suis quand même un peu inquiet de voir que demain matin on privatise quand même une entreprise qui est pas vraiment performante. On n'aurait pas intérêt à aller vers la concurrence puis en fait de substituer complètement cette société d'État-là par une autre entreprise.
Là, ta question, si je comprends bien, c'est, en prenant l'exemple de Post-Canada, c'est si on laissait la concurrence entrer.
Oui, ben demain matin, si on permet à FedEx de faire justement la livraison de lettres, comme t'as en Europe, là, y a, dans les pays scandinaves, là, tu peux avoir 3, 4, 5 entreprises qui livrent le courrier. Si on fait ça, ben, par la force des choses, je veux dire, c'est sûr que sûrement que Post-Canada va réduire ses effectifs, vont garder les structures administratives les plus efficaces, ils vont se resizer, comme on dit en bon anglais. Versus prendre Post-Canada tel quel aujourd'hui, envoyer ça en appel public là, pour privatiser tout ça, puis s'en retrouver le même matin avec sûrement des grèves puis des gens qui vont devoir aussi couper dans leurs conditions.
En effet, c'est un bon pas en avant d'ouvrir le marché à la compétition, mais on peut toujours garder une société publique qui va faire compétition avec des firmes privées.
Ben, c'est ça.
Ça a un effet sur l'efficacité des firmes, mais ça n'a pas... Ça serait l'exemple, un exemple dans la note sur Post-Canada, c'est la Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, il y a de la compétition à la firme publique qui fait le courrier. Mmh. Et les prix ont baissé de 30%.
Ben, c'est
assez impressionnant.
Ben oui, et ça, c'est le consommateur là, qui est directement favorisé par ça. Là.
Qui est directement le premier gagnant de ça. Et par contre, l'effet de la privatisation est souvent sous-estimé parce que, premièrement, les sociétés d'État... C'est difficile d'avoir accès à leurs livres comptables tout au complet, mais quand on réussit à regarder un peu qu'est-ce qu'ils font, on voit souvent des nominations politiques ou beaucoup d'échecs, de nouvelles aventures, de nouvelles choses aussi qui sortent un peu de leur créneau, une grande difficulté à innover, puis souvent des coûts qui sont repassés à la société, même en général. Et le meilleur exemple de ça, c'est vraiment l'idée que si tu es une entreprise publique, disons Post-Canada, ou même que tu es la SAQ en compétition, ou que tu es n'importe quelle compagnie qui fait face à de la compétition, si tu es en situation financière très difficile, le gouvernement peut faire des prêts à sa propre société d'État avec des taux d'intérêt plus bas, peut aussi la sauver, peut faire plein d'affaires qui vont être plus faciles que faire avec le secteur, avec des entreprises purement privées.
OK, ouais.
Donc, tu n'as pas les mêmes incitations sur l'équipe de gestion de l'entreprise. Et donc, tu as quand même cette petite perte d'efficacité-là, tandis que quand tu es toi, actionnaire, disons que toi puis moi, Steve, on achète la business et on met chacun 50 000 $ dans une entreprise publique qu'on a achetée. Mais puisque c'est notre argent qui est en jeu, on va demander le maximum possible de valeur pour chacun des dollars qu'on a investis de la part de l'équipe de gestion. On va surveiller l'équipe de gestion. Notre intérêt est purement économique. Le gouvernement, lui, en plus de ça, n'a pas un intérêt qui est nécessairement économique. Par exemple, peut-être que lui, son intérêt, c'est pas d'avoir le plus haut rendement de Post Canada, mais de s'assurer que Post Canada demeure un signe d'unité nationale ou quelque chose qui, justement, ouais, avantage des intérêts qui sont ceux qui sont différents de celui du consommateur. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas oublier le concept de privatisation, c'est essentiellement les bienfaits de la propriété privée.
Mais en bout de ligne, parce que oui, on comprend évidemment que si on va vers des sociétés privées, en tout cas les consommateurs le comprennent rapidement, surtout quand on voit, tu parlais tantôt de la SAC, ce qui nous frappe en premier lorsqu'on traverse les douanes américaines, c'est justement les prix à la consommation, la démocratisation, l'accès beaucoup plus facile aux produits. Ici au Québec, on a l'impression qu'on en fait un chien de garde de la vente de boissons. Comment tu expliques, puis je sais pas si vous avez fouillé ça, parce que ici à l'émission, on a parlé souvent des fonctions régaliennes. Oui. Normalement, qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'on a autant de sociétés d'État, justement, dans des secteurs d'activité qui, à la base...
Ce sont pas des biens publics, là.
Non, c'est
comme
ça.
La défense, puis la justice, puis ce que des gens un peu plus libéraux considèrent comme les missions essentielles.
Ben, c'est ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait à vendre de la boisson en 2011 quand il existe des gros réseaux de distribution, quand on sait que les grandes chaînes, les supermarchés de ce monde, puis encore là, quand on va à l'extérieur, quand on va aux États-Unis, au Mexique, ou peu importe, que ce soit en Europe, les grandes surfaces qui vendent des produits de qualité, on voit que l'accès est beaucoup plus simple, comme je dis, et les prix sont vraiment alléchants pour le consommateur. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui au Québec, puis je sais pas si on a fait des études en ce sens-là, savoir si on avait plus de sociétés d'État qu'ailleurs dans le monde, mais il me semble qu'on en a beaucoup et pour des secteurs d'activité qui sont essentiellement très loin du mandat même d'un gouvernement.
Oui, généralement, il y a beaucoup de sociétés qui existent dans le monde encore, des sociétés d'État qui produisent des biens qu'on va dire non publics, puis des biens non publics, ça serait exemple, comme toi puis moi on parle littéralement à la justice, l'administration des cours ouais. La police. Certains pourraient ajouter les routes, en tout cas, peu importe jusqu'à où on veut aller, mais par contre, t'as encore des places où t'as énormément de sociétés d'État, par exemple, dans le secteur de l'énergie ou dans le secteur des télécommunications.
Oui.
Ou même dans le secteur postal.
Ben, je pense que la CRTC au Canada est un bel exemple aussi.
CRTC, c'est pas une société d'État.
Non, c'est vrai, c'est pas une société d'État.
C'est une entité qui fait de la réglementation des activités, mais maintenant, on va prendre l'exemple de l'alcool, parce que, tu sais, j'aimerais ça donner à nos auditeurs, c'est du concret, c'est
ouais, une
illustration, pas juste théorique. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Grande-Bretagne, j'ai vécu dans les deux pays, puis les prix sont généralement plus bas. Aux États-Unis, quand on prend la peine de comparer des bouteilles qui sont comparables, puis un bon échantillon, on remarque que les bouteilles de vin, c'est 30% moins cher aux États-Unis, et les bouteilles de fort, l'écart est un petit peu plus grand, des fois ça approche de 40%, par exemple.
Ben, je peux te le dire.
Un exemple, la bouteille de Beefeater Dry Gin, c'est 40% moins cher aux États-Unis qu'ici.
Ben oui.
Par exemple, tu sais, de 250 ml de Beefeater Dry Gin aux États-Unis pour 3$, ici c'est 7$ des fois à la SAQ. C'est quand même des petits formats, là. Grande-Bretagne, même chose, l'alcool est beaucoup moins cher. Là, moi, j'avais estimé par à peu près 20% moins cher. C'est quand même des écarts importants. Mais au Québec, là, pour une réponse anecdotique, on a publié un cahier à l'Institut en 2005 par mon collègue Valentin Petkanchin, et c'était justement sur la question de la SAQ, et justement on fait l'histoire de comment est-ce qu'on en est venu à avoir un monopole sur la vente d'alcool, et c'était une sorte de vestige de l'époque de la prohibition.
Ouais, je comprends.
Où on avait décidé au Québec d'être beaucoup plus lousse, et au lieu d'interdire, on a décidé de monopoliser la vente. On était vraiment très 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 unique en Amérique du Nord à ce stade-là. Mais on a gardé ce vestige-là dans le temps, et maintenant on a encore une entreprise qui vend de l'alcool au grand public. Mais un exemple, là, tu viens de te parler des grandes surfaces. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, où j'ai vécu, quand je rentrais dans l'équivalent britannique du Walmart, le Tesco, tu pouvais acheter des bouteilles de vin excessivement pas chères et tu avais une sélection que je te dirais pour une épicerie, là, j'avais presque 60% de la sélection que j'avais dans une SAQ en termes de vin. Ce qui est assez impressionnant. Et pourtant, eux autres, leur marge de profit est à peu près les marges des profits des compagnies dans le détail, c'est du 2 à 3%. Ça veut dire que pour chaque dollar de vente, ils font juste 2 cents de profit. 2 à 3 cents de profit sur chaque dollar de vente. Ça veut dire que c'est très peu. La SAQ, sur chaque dollar de vente, Claude Garcia l'avait estimé entre 20 et 30 sous. Ça, c'est gigantesque. Puis ça, c'est justement la prime d'être un monopole.
Oui, mais il y a aussi une taxe aussi. La SAQ se prend sur un profit puis sur une taxe.
Exactement. Puis c'est ça la question d'une société d'État en monopole comme la SAQ. C'est pas un revenu pour l'État. J'ai un de mes amis, il dit bien, il dit très bien, c'est un ancien justement aussi à l'Institut. La SAQ, c'est la vache à lait de l'État, puis c'est effectivement une vache à lait, puis c'est nous autres qui se fait
mais faire. Justement, mais c'est ça, mais c'est pas là le problème, parce que beaucoup de gens, puis garde, c'est bien que tu le dises, des gens, puis je l'entends souvent, vont dire, ah, c'est une vache à lait, comme l'Auto-Québec, comme la SAQ, mais comme tu dis, on n'a pas accès à ces chiffres-là. Si ces entreprises-là seraient plus performantes, est-ce qu'on aurait plus de revenus? Si ils se retireraient carrément, puis le gouvernement, mettons, garderait des niveaux de taxes sur ces produits-là, est-ce qu'on arriverait au même résultat au net? Parce qu'on le sait, là, oui, il y a beaucoup d'argent qui est généré, mais il y a beaucoup d'argent aussi qui est consommé par les structures à l'interne de ces grandes agences-là ou de ces sociétés-là.
En effet, la SAQ a des gros coûts d'immobilisation.
C'est énorme.
Et justement, la raison qu'elle est si profitable, c'est parce qu'elle a un monopole.
Ben oui.
Mais faut se rappeler une chose là-dedans, dans tout ça, l'argument des revenus pour l'État, la vache à lait, il faut se rappeler que c'est nous autres qui se fait traire. Donc, tu sais, la vache, c'est nous autres, puis on se fait traire comme consommateurs parce qu'on ne bénéficie pas du bienfait de la compétition. Mais si l'argument, c'est de faire des revenus pour l'État, la logique serait de vouloir nationaliser Walmart.
Ben,
si ça fait des profits, ça devrait être nationalisé. C'est pas ça le cas. Le but d'une entreprise privée, c'est de faire du profit, de réduire les coûts, d'être plus productif, d'être le plus efficace possible pour passer les épargnes aux consommateurs dans la forme de produits de meilleure qualité, même
oui,
les deux en même temps.
Parce qu'on va frapper un mur tout à l'heure. Là. Je veux dire, là, encore là, je trouve qu'aujourd'hui, les gens sont quand même assez ouvert d'esprit d'accepter là des prix comme ça au niveau des bouteilles. Si on parle de la SAQ ou qu'on parle des autres sociétés d'État qui des fois, même Post-Canada aujourd'hui, tu fais le comparable là, puis maintenant les gens peuvent avec les outils en ligne là, c'est pas comme avant, il faut aller faire peser le colis aujourd'hui à partir de la maison, on peut rapidement voir si ça coûte moins cher avec les entreprises privées ou Post-Canada. Les gens, je les trouve quand même assez conciliants parce que un de ces quatre, là, lorsque la bouteille de vin d'un Cabernet Sauvignon qui se vend à 2 ou 3 $ ailleurs dans le monde se vendra 25 $ au Québec, on aura des difficultés, puis là, les revenus vont stagner, puis vont diminuer considérablement parce que là, c'est des hausses après hausses, puis ce monopole-là, à un moment donné, pourrait quand même mourir par lui-même.
En effet, des fois, les monopoles peuvent se mettre eux-mêmes dans des situations problématiques. Mais en quel cas le gouvernement peut intervenir pour leur donner des subventions? Ça se voyait beaucoup en Angleterre avant Margaret Thatcher. Beaucoup de compagnies publiques recevaient énormément de subventions pour combler leur déficit d'opération. Post-Canada, avant, jusqu'à 1981, c'était une société qui était en fait un département gouvernemental qui perdait de l'argent. Donc, en tant que tel, les revenus de d'autres ministères servaient à subventionner ça. Souvent, ça va passer d'une manière discrète sur le dos du consommateur. Mais par contre, dans les situations de compétition, prenons Post-Canada, on remarque les places où il y a eu privatisation et libéralisation, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, les prix ont baissé de 17, de 11, même de 15 % dans les 10 ans qui ont suivi la réforme. Puis ça, c'est en tenant compte de l'inflation. Et ça veut dire que les consommateurs ont sauvé énormément d'argent parce qu'à l'intérieur de l'entreprise, il y avait des meilleures incitations à la productivité, à mieux utiliser les ressources qui étaient disponibles, à moins gaspiller, à être plus efficace. Et ça a été passé aux consommateurs sous la forme de prix plus bas. Et souvent, j'en ai arrêté deux secondes sur le cas de Post-Canada, les gens pensent juste au prix du thème de Post-Canada, tu sais, ce que tu envoies à ta grand-mère, peu importe où elle vit. Mais Post-Canada, c'est aussi la facture que tu reçois de ta compagnie de téléphone, c'est aussi la facture que tu reçois... Mmh. Ça, c'est des intrants dans plusieurs compagnies, mais c'est encore plus un intrant, par exemple, dans le coût des maisons de publication qui doivent envoyer leurs magazines aux gens qui ont des subscriptions. Puis tout ça, c'est un intrant dans beaucoup d'entreprises. Et les gens pourraient sauver quand même un montant important d'argent s'il y avait plus d'efficacité à ce montant-là. Ce ne serait pas juste les individus, ce serait des entreprises qui pourraient remettre plus de profit à leurs actionnaires. Ce serait des particuliers avec des prix plus bas. Ce serait des entreprises qui pourraient même faire passer des prix plus bas aux consommateurs parce que justement, ils ont moins à dépenser pour un prix postal trop élevé. Mais ça, c'est grâce à la compétition et c'est surtout grâce au fait que dans une situation privée, les incitations se sont alignées pour augmenter la productivité, donc faire plus avec autant de ressources, sans gaspiller, être plus efficace, être plus intelligent dans l'utilisation et donc passer les coûts plus bas aux consommateurs.
On sait aussi que pour la privatisation, parce que ça, c'est fort dans votre papier, justement, par rapport à Post Canada, c'est une question de timing. Je pense que là, vous dites que par rapport à Post Canada, le timing serait bon, peut-être, pour faire l'exercice?
Oui, en fait, ça c'est la question. Tu t'as posé la question à 100 000. C'est Steve ou Danny qui me posait la question?
C'est Steve.
Les bonnes questions, c'est Steve.
OK, c'est bon. Non, c'est ça. Tu as posé la question à 100 000. Comment privatiser? C'est quoi le moment pour privatiser?
Oui, c'est ça.
Post-Canada, présentement, est dans une situation où elle a énormément de défis. Et il y a un rapport gouvernemental qui disait que dans le framework actuel, dans le cadre qu'ils ont actuellement, ils ne peuvent pas le faire, ils peuvent pas adresser les difficultés qu'ils ont au contrôle des coûts de la main-d'œuvre, au niveau de la modernisation, au niveau des fonds de retraite, au niveau du fait que le marché postal est en déclin parce que maintenant les gens utilisent le courriel.
Ben oui.
Ils peuvent pas le faire dans le contexte d'un monopole. Et donc, c'est une occasion d'aller de l'avant. Et ce rapport-là, par exemple, proposait une méthode de privatisation, du comment de privatiser, et ils parlaient d'un employee share. Ça, c'est une des méthodes qui existe, c'est de vendre des actions directement aux actionnaires ou même de leur offrir les actions dans le but qu'ils partagent toute hausse de profitabilité et de gain de productivité. Et en même temps, on mettrait Post-Canada en compétition. Mais eux seraient gagnants d'améliorer l'entreprise et ils seraient les premiers bénéficiaires d'une plus grande efficacité. Ça, c'est une manière de privatiser qui permet d'avoir les gens à bord du projet, puis de justement que s'assurer que la privatisation réussisse parce que c'est possible qu'une privatisation soit mal faite.
Là, ça, c'est un peu le constat pour Post-Canada. Est-ce qu'on peut en venir aux mêmes conclusions par rapport à d'autres sociétés d'État? Puis si on prend celle du Québec comme la SAC, parce que comme j'ai dit, il y a une question aussi de vent ou de courant de pensée qui circule actuellement. On sait que la DQ aussi en ont parlé. Est-ce qu'on est dans un bon timing aussi pour ces entreprises-là ou quand on parle de la SAC, là, c'est quelque chose de plus longue haleine, puis faudrait penser à un horizon beaucoup plus lointaine?
Écoute, je me prononce pas trop sur les affaires politiques parce que tu sais, je suis plus un chercheur qu'autre chose. Mais je vais donner un exemple. Il y a déjà eu des momentum pour la privatisation quand c'est des moments relativement tranquilles. Puis le meilleur exemple, c'est Petro-Canada. On oublie pendant dans les années 80, Petro-Canada, c'est une compagnie d'État. On a complètement, les gens ont complètement oublié ce fait-là. Et quand Petro-Canada était une compagnie d'État, la production de Petro-Canada avait échoué. Elle produisait très mal les services. Et elle a été privatisée avec énormément d'efficacité. Air Canada aussi, Canada, toutes les compagnies qui appartenaient à l'État qui ont été faites parce qu'ils étaient dans une situation problématique. Maintenant, la SAQ n'est pas dans une situation aussi terrible que ces entreprises-là l'étaient dans les années 80-90, mais quand même, le constat est que beaucoup de Québécois le sentent, qu'ils perdent de la présence du monopole de la SAQ et du fait que c'est une société d'État. Et quand on regarde, par exemple, les sondages, le dernier sondage que nous autres, on avait commandé à l'Institut, il y avait à peu près 40% des Québécois qui étaient favorables à privatiser Hydro-Québec, la SAQ. Donc, il y a, oui, des gens qui sont favorables, mais oui, les gens le réalisent de plus en plus, surtout quand on prend note que les prix de l'alcool ici sont considérablement plus chers, 30% pour le vin, des fois 40% pour les spiritueux, qu'ils ne le sont aux États-Unis. Donc, des coûts beaucoup plus élevés pour nous, et que c'est ça, c'est transféré au gouvernement sous la forme d'une taxe implicite.
Fait que ultimement, le fait d'aller vers la privatisation, c'est peut-être quelque chose qui va s'imposer par soi-même?
À long terme, je le souhaite.
Oui.
À court terme aussi, je le souhaite, en fait. Mais c'est aussi une mission d'éducation, d'expliquer que la meilleure manière de l'illustrer, c'est on est habitué, on va, c'est pas une mission essentielle de l'État, l'alcool. On va dans un dépanneur et on est servi par le secteur privé. On va dans une épicerie, on est servi par le secteur privé. On va dans un Walmart, mais servi par une compagnie privée. L'alcool étant distribué dans plusieurs pays par des compagnies privées dans ces cas-là. Il y n'y a aucune raison que l'alcool devienne un monopole public avec une société d'État. Et ça, si on l'explique aux gens et on fait cet effort de pédagogie, puis expliquer aussi qu'il y a des méthodes de privatisation qui peuvent en plus les faire gagner. Puis par exemple, le cas, c'est l'Angleterre. En Angleterre, quand Thatcher commençait à privatiser, elle, ce qu'elle faisait, c'était vraiment des privatisations très, très importantes en vendant des actions au grand public. Elle, ce qu'elle voulait, c'était fondamentalement que les citoyens britanniques deviennent des actionnaires.
Ouais,
et au lieu d'avoir seulement une minorité de la population qui sont des actionnaires, d'avoir une très grande partie de la population qui deviennent des actionnaires et qui deviennent impliqués dans le processus de création de richesses par les profits. Et dans les années où Thatcher était là, le nombre de Britanniques qui avaient des actions est passé à peu près proche d'en bas de 10% à juste un peu au-dessus de 30%. Donc, les Britanniques étaient devenus actifs dans le processus de création de richesses. Et là, c'est peut-être une des manières que, en vendant des actions, pas nécessairement pour faire des revenus pour l'État, mais en incluant les gens dans le processus de réalisation de profits, de leur vendre la privatisation comme un bienfait pour eux comme consommateurs, pour eux comme contribuables et pour eux même comme travailleurs, des fois, comme dans le cas de Post Canada, pour les entreprises qui reçoivent des services de Post Canada plus chers qu'ils ne pourraient l'être.
Là, tu as devancé ma question parce que, justement, je voulais parler de l'impact des actionnaires, justement. Dans le rôle des actionnaires, là, dans le fait qu'une compagnie devienne plus efficace, efficiente et tout ça, là, est vraiment pas à négliger. Donc, des cas comme Thatcher qui fait ça puis qui dit, bon, ben maintenant, là, la fiscalité puis l'économie de tout ça est vraiment transparent. Tout le monde peut consulter les états financiers et les actionnaires peuvent être très exigeants. Ça amène vraiment une compagnie à aller vers l'efficacité et l'efficience. Là.
Oui, oui, des actionnaires qui sont fâchés.
Ah oui?
Des actionnaires fâchés qui veulent savoir aussi que leur argent va. Généralement, ils demandent beaucoup, beaucoup de l'entreprise.
Mmh. Puis, les bailleurs de fonds
dans
aussi.
Des pays où il y a beaucoup de compagnies publiques qui existent et beaucoup de compagnies privées et même des compagnies qui sont mixtes. Et les deux exemples, c'est la Chine et l'Inde, où il y a encore beaucoup de compagnies publiques, beaucoup de compagnies un peu mixtes des deux, avec des privatisations partielles où l'actionnaire privé est minoritaire, et où il y a des compagnies purement privées sur et ils ont regardé, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'Inde, la différence entre les compagnies, l'efficacité des compagnies publiques, celles de l'État purement public, et les compagnies purement privées, c'était 33% plus efficace les compagnies privées,
oui.
Mais même une présence partiel d'investisseurs privés, juste, disons, 25% de Post Canada, on va prendre cet exemple-là, ça faisait que l'écart était juste de 12 à 20%, dépendant des entreprises, entre les compagnies partiellement privées et 100% privées, parce que l'actionnaire privé est présent à la table. Il demande à avoir un plus grand rendement, il demande à avoir une plus grande efficacité, et donc la compagnie augmente sa profitabilité, coupe dans les coûts inutiles, coupe dans le gaspillage, améliore ses façons de faire, utilise la main-d'œuvre plus intelligemment, ne gaspille pas les ressources, et ça fait que les actionnaires obtiennent une valeur. Et il faut jamais sous-estimer, et c'est ça qu'on parlait au début, il faut jamais sous-estimer la force d'un actionnaire dans un processus décisionnel, si son intérêt, c'est justement de maximiser le profit et non pas son intérêt étant politique comme un gouvernement a.
Il y a l'aspect bailleur de fonds aussi.
Oui.
Cet aspect-là peut faire en sorte que Ego là, améliore tes processus là, si tu veux avoir des prêts. Là.
C'est un bon point. Puis un autre exemple, ça serait la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, quand ils ont. Je te sors tout le temps des exemples, mais British Telecom, qui était la compagnie qui faisait les téléphones en Grande-Bretagne, quand Thatcher est arrivé au pouvoir, il devait faire un investissement massif pour mettre à jour les lignes de téléphone. Il y avait des anecdotes de citoyens britanniques que j'ai côtoyés qui me disaient que ça leur prenait plusieurs jours de pouvoir faire une demande pour avoir un téléphone et ensuite ils étaient sur une liste d'attente pour obtenir un téléphone. Maintenant, tu veux installer une ligne téléphonique, t'attends pas plus qu'une semaine ici. Donc,
ça,
c'est dans le pire scénario parce que t'es pas là cette journée-là, t'es pas là à ce moment-là, puis t'essaies de coordonner avec ça. Mais généralement, tu peux avoir une ligne. T'es prêt à sacrifier une ligne pour la ligne le lendemain que tu l'as appelé. Mais en Angleterre, t'avais ce problème-là. Il y avait beaucoup de modernisation qui devait être faite au niveau des technologies et ça demandait énormément de dépenses au gouvernement. Et le gouvernement Thatcher a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement inviter le secteur privé à faire cet investissement-là et non pas nous autres. Mmh. Eux vont savoir c'est quoi qui est bon à faire, quelle technologie utiliser, comment le faire et comment répondre à la clientèle en même temps. Et en fait, ce qui s'est passé quand ils ont privatisé British Telecom, ils avaient estimé un prix et le prix, en fait, qu'ils avaient estimé était plus bas que ce que les gens ont vendu. Et les gens l'ont acheté beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Et ça a libéré énormément de revenus pour le gouvernement britannique. C'était 10 milliards de dollars américains. Puis ça, on parle de 1980... je pense qu'on parle des débuts des années... fin des années 80 pour British Telecom. Et ça a ramassé énormément de revenus pour le gouvernement britannique.
Mais justement, puis en plus, je pense que tantôt, tu as touché un bon point pour relever l'éducation des gens, puis surtout avoir un réflexe beaucoup plus de quelqu'un qui a des comptes à rendre envers sa population. À ce moment-là, quand tu vas arriver le temps des impôts, on ne regardera pas juste les impôts qu'on paie, mais comment on aurait pu sauver avec nos entreprises plus performantes. Puis ça, aujourd'hui, on n'a pas ce réflexe-là, les gens.
En effet, puis c'est tout à fait rationnel, je veux dire. Toi et moi, on travaille, on a une famille, on a des gens qu'on aime, puis on a des gens avec qui on aime passer du temps. Et pour toi et moi, et pour n'importe qui nous écoute, aller prendre le rapport annuel de Post Canada ou de la SAQ ou d'Hydro-Québec, d'ouvrir, de calculer les ratios de profitabilité, les rendements sur les avoirs propres, tous les termes techniques, le temps qu'on investirait là-dedans, les ressources qu'on investirait là-dedans sont tellement gigantesque comparé au bénéfice, la possibilité d'avoir un petit bénéfice en allant voter en disant « je suis pas satisfait de la gestion de Post-Canada ou d'Hydro-Québec ou de la SAQ ». Donc, contrairement à ça, un actionnaire privé, lui, par contre, lui, il va le scruter, le rapport annuel. Lui, il va regarder qu'est-ce qu'il y a comme valeur. Lui, il va dire « je t'ai mis 30 000 piastres là-dedans puis j'ai pas la valeur de mon travail. »
Oui, puis en plus...
Autres, on l'a pas, cette incitation-là.
Ce que tu dis là, le vérificateur l'a confirmé. Hein. Le vérificateur s'en plaint à chaque année de la difficulté. Puis on a eu aussi Claire Joly ici à l'émission qui l'a répété souvent. Pour les sociétés d'État, c'est très difficile d'avoir les chiffres.
En effet. Ça aussi, c'est un problème. Ouais. C'est très difficile de donner une information claire sur qu'est-ce qu'ils ont comme information. En fait, une société d'État étant assujettie à une réalité politique ne publiera pas des données qui lui sont...
défavorables
ou même, tu sais, c'est difficile des fois, par exemple, des rapports de Post Canada, il y a plusieurs années où j'ai pas pu trouver qu'est-ce qui était versé en fonds de retraite. Et il y a eu plusieurs années, comme 10 ans, où j'ai pas pu trouver aucun versement au fonds de retraite, mais il dit, mais ça, le chiffre réapparaît 10 ans après dans les rapports.
Ah, okay.
Donc, des fois, il y a des choses comme ça qui apparaissaient, ou des fois, les catégories changeaient de manière vraiment arbitraire. C'était très difficile d'essayer d'évaluer la véritable valeur précisément de qu'est-ce qu'on avait comme contribuable en termes de bangs for our bucks.
C'est ça, puis un journaliste qui va avoir de l'information sur ces sociétés d'État-là n'est pas capable, ne sont pas assujettis à la loi d'accès
là-dessus. Non, toute société d'État est assujettie à la loi d'accès à l'information.
Ben, je sais que Radio-Canada, entre autres, là, c'est très difficile d'avoir des chiffres. Hydro-Québec ont de la misère aussi.
C'est difficile d'avoir des chiffres s'ils sont pas compilés, mais tout document public peut être demandé. Mmh. Ça, c'est pas un problème.
Ouais.
Mais c'est difficile de comprendre. Ouais. C'est surtout de comprendre les rapports annuels.
Mais justement, toi, t'as-tu eu de la difficulté?
Moi, je vais être honnête avec toi. Une note économique comme celle sur Post Canada, ça m'a quand même pris une journée dans les archives de la bibliothèque des HEC, où j'ai dû ouvrir tous les rapports annuels et compiler les données et essayer de comprendre chaque note méthodologique, qu'est-ce que ça voulait dire. Et donc, tu sais, après ça, essayer d'évaluer pour monter, c'est l'information qui se retrouvait dans la note. C'est un gros investissement en termes de temps, mais moi, c'est parce que comme chercheur, je suis payé pour faire
ça. C'est ça.
Mais toi et moi, dans mon temps libre, je n'irai pas à la bibliothèque des HEC ouvrir les rapports annuels de Post Canada pour une société qui fait 8 milliards de dollars par année. C'est un bon pourcentage de l'économie canadienne, mais est-ce que je vais aller faire ça pour peut-être à la fin de l'année sauver 20 cents sur un thème si le gouvernement m'écoute, ce qui serait assez... C'est ce qui serait désirable, mais pour sauver 20 cents, j'ai pas un grand intérêt à faire ça.
Ouais. C'est peut-être pas pour sauver 20 cents, mais pour que la société soit plus rentable puis qu'elle donne plus d'argent au gouvernement, dans le fond.
Oui, mais tu lèves un point. L'argent, peut-être un très bon point, l'argent versé au gouvernement, il y a un avantage à la privatisation que les gens oublient de noter. Ils disent on vend une vache à lait, mais premièrement, la première chose que tu te mentionnes tantôt, c'est notre argument, c'est de faire des revenus. l'idée, ça serait de nationaliser des boulangeries ou des épiceries parce qu'ils font de l'argent. Ce serait ridicule cette ligne argumentaire-là. Par contre, le but d'une privatisation, c'est aussi de sauver de l'argent aux consommateurs qui peuvent dépenser ailleurs. Le vieux concept de la vitre cassée que toi et moi on connaît bien, c'est pas parce qu'on casse une fenêtre que les gens sont plus riches. Mais l'autre chose, c'est qu'il y a un effet aussi, quand tu vends la société d'État, tu peux prendre l'argent qui est passé maintenant et le mettre sur les dettes que tu as pour te libérer des dépenses de services d'intérêt. Donc, tu fais gagner la société dans le sens où le consommateur est gagnant, le contribuable ne plus à porter le poids de ça par le fait que les revenus servent à rembourser la dette et donc de réduire le fardeau de la dette, c'est-à-dire les paiements d'intérêt qui sont faits chaque année.
Ouais. Ben, il y a des gens d'ailleurs qui partagent ce point de vue-là au Québec. Il y en a qui disent, ben, lorsque la dette du Québec sera trop élevée, on vendra Hydro-Québec.
Ben, tu sais, premièrement, ça serait Hydro-Québec. Justement, Claude Garcia, qui était avec moi à l'Institut, avait estimé la valeur d'Hydro-Québec à près 130-140 milliards.
Mais il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec cette valeur-là. Hein. Il y en a qui disent que c'est peut-être surévalué. Parce qu'on l'entend, le chiffre, là, mais...
Oui, le chiffre est débattu. C'est pour ça que je m'en servais pas, parce que c'est un monopole. C'est difficile d'évaluer la valeur d'un monopole parce qu'il n'y a pas de compétition, donc il n'y a pas de prix. On peut pas savoir la valeur de quelque chose si personne en veut.
Ouais.
maintenant, peu importe c'est quoi la valeur, c'est difficile d'émettre 130 milliards sur un marché de capital comme ça demain matin. C'est très difficile de privatiser quelque chose aussi gros d'un coup. Beaucoup de privatisation, ça prend plusieurs années, et la manière de le faire, la privatisation ne devrait pas être faite pour des raisons de revenus. Oui, c'est un bénéfice additionnel, mais c'est pas la raison principale.
Ouais, ouais.
C'est le gain pour le consommateur, pour la société en général, et pour le contribuable qui n'a plus à payer le coût de ce gaspillage de ressources, parce que ces entreprises-là n'ont pas les mêmes incitations qu'une entreprise dans le secteur privé.
Okay. Et en terminant, pour ceux qui n'ont pas lu votre note économique, là, le scénario idéal là, parmi les pays que vous avez étudiés dans le cas de Post Canada, là, ça serait, c'est quoi votre scénario idéal là,
si on voulait privatiser? J'aime beaucoup le cas de l'Allemagne. Le cas de l'Allemagne, c'était littéralement une privatisation qui a eu lieu en même temps que la libéralisation. Et ça s'est fait très vite. Ça s'est fait avec beaucoup de pédagogie, et ça a permis justement aux consommateurs allemands de sauver beaucoup d'argent, mais aussi ça crée beaucoup de compétition dans le marché postal, et en plus de tout ça, la compagnie Deutsche Post, maintenant, c'est une des plus grandes compagnies au monde. Avant, dans tous les pays du monde, elle fait de la livraison partout, elle s'est même étendue dans le service bancaire, elle s'est diversifiée justement pour s'adapter à la nouvelle réalité du marché postal qui est en difficulté partout à cause du courriel et du fax et de n'importe quelle autre technologie qui est un substitut à cela. Les investisseurs privés, parce que leur argent était en jeu, ont demandé à la compagnie de se diversifier et de gagner une nouvelle expertise justement pour qu'eux puissent avoir des profits et adresser justement la valeur qu'ils obtiennent. Donc, l'exemple de l'Allemagne serait de loin mon préféré.
Puis on commence quand?
Ah, j'aimerais ça qu'on commence immédiatement. Mais la manière de commencer, c'est un peu ce que le rapport qui avait évalué la performance de Post-Canada, puis c'est un rapport gouvernemental, il disait justement qu'une bonne manière de commencer, ça serait de vendre des actions aux travailleurs pour qu'ils soient les premiers bénéficiaires de toute augmentation de la productivité, parce qu'eux obtiendraient des profits plus élevés, donc des dividendes. Donc, disons, si le travailleur, il se lève chaque matin, puis il voit qu'il perd 20 minutes à attendre qu'on trie le courrier comme fou, lui, il dit, garde, là, ça, c'est de l'argent que moi, je peux perdre, soit donc plus efficace, ou bien ils vont travailler peut-être un peu plus fort, peut-être qu'ils vont vouloir faire, ils vont vouloir penser à une meilleure route à utiliser, ils vont peut-être penser à comment, tu sais, mieux travailler, ils vont demander mieux, le management aussi ils vont être beaucoup plus coopératifs avec le management, ils vont essayer de comprendre beaucoup, et tu pourras avoir énormément de gains de productivité, et eux seraient les premiers gagnants, puisqu'ils seraient actionnaires. Et ensuite, le reste pourrait être vendu progressivement à des actionnaires privés.
Ah, on va espérer que ça voit le jour.
Je le souhaite.
Ben, c'est congé lundi, on pourrait commencer mardi.
Ouais, c'est ça.
Bon, ben, mardi, on pourrait commencer ça.
Parfait. Hey, profite du long week-end, Vincent.
Tout de même, Steve.
Si t'es de passage à Québec, tu viens nous voir en studio?
Ben oui, toujours.
Puis, oui, puis j'apprécie le fait que t'es, comme je t'ai dit, là, un peu retardé tes vacances. J'imagine que t'as déjà peut-être commencé à en profiter quand même.
Oui, oui, oui. Moi, je suis présentement à Sherbrooke,
Sherbrooke,
en train de prendre bon temps de mes vacances. Là.
Donc, quelqu'un de Montréal est capable de sortir de la métropole?
Oui, oui, un Montréalais est capable de sortir de Montréal.
Donc, tu te considères en région, là?
Oui, je me considère en région.
OK. Allez, merci, Vincent. Puis, c'est toujours intéressant de te lire. Donc, on invite les gens, évidemment, à consulter le site de l'Institut économique de Montréal où on retrouve, en fin de compte, le papier qu'on a discuté longuement ce soir par rapport à Post Canada et bien d'autres choses aussi.
Ça fait plaisir, Danny. Puis, fais attention à toi, Steve.
OK. Salut. Bye.
Cheers.
Chic type. Je l'ai rencontré même personnellement. J'ai partagé un verre avec Vincent. Du name dropping, là, mais
On l'a vu au RLQ aussi.
Ouais, c'est ça, il était au RLQ. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très bien. C'est toujours intéressant aussi.
Il est jeune, hein?
Oui.
Il est quoi, 24 peut-être maintenant?
Oui,
là,
c'est ça. Puis, il a fait sa première apparition grand public dans le film, justement, L'Illusion tranquille. Donc, Vincent, qui était sur le panel là, des jeunes là, qui à l'intérieur du film, là, argumente là, par rapport au modèle québécois. Notre ami Rénal a fait son arrivée. En plus,
il est prêt, hein. Je le vois prêt, prendre des notes depuis tantôt, là.
Oui, beaucoup de notes. Le portable, le petit vin rouge, en plus.
Vous allez avoir hâte que la toune finisse. Oui. Ça commence.
On va aller immédiatement en pause pour, justement, maximiser, le temps avec Rénal. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Vous êtes sur les ondes du XM156 et, du radioshock.fm.
C'est là.
Deep in you, a frightening magic I cling to. Give me a chance to hold on. Give me a chance to hold on. Give me a chance to hold on. Just give me something to hold on. It's so clear now.
On est de retour à l'émission Connaître la suite. Et que c'est le fun. L'été qui approche en compagnie de personnes agréables. J'aime ça quand Renal vient sur le show.
Il nous surprend toujours.
Oui. Et comme ça, ça s'est fait très, très rapidement. Puis là, on est en train de discuter durant la pause, justement, et il nous disait qu'il arrive du Liban et que ça s'est fait aussi rapidement comme choix de destination. Donc, Renal, tu te revires sur un 10e en bon québécois.
Oui, souvent, c'est les décisions qui sont prises les plus rapidement qui sont les meilleures.
Ouais.
Effectivement, pour le Liban, c'est une copine à moi de Californie qui m'a proposé ce voyage-là, avec qui j'ai déjà voyagé en Afrique. Et puis, en dedans de 2 heures, tout était fait, réservation.
La magie de l'Internet, hein?
Oui.
C'est ça, aujourd'hui.
Ça s'est fait rapidement, mais je ne le regrette pas. Il a fait un temps superbe. J'ai retrouvé le Liban que j'avais vu il y a 7 ans.
Oui, parce que t'es déjà allé.
Avec quelques palmiers en moins, parce qu'entre-temps, il y a eu la guerre israélo-libanaise qui a fait pas mal de dégâts. Mais j'ai été beaucoup plus impressionné, d'abord parce qu'il y avait beaucoup moins de touristes qu'il y a 7 ans. Les sites archéologiques étaient pratiquement déserts. J'ai vu des enfants d'école sur les sites.
Ah ouais?
Ouais. Étant donné la situation politique dans la région,
ben,
je parle
c'est
pas
ça,
du Liban particulièrement, mais de la Syrie surtout,
ouais.
Parce que la plupart des touristes qui vont au Liban, vu que c'est assez loin, préfèrent organiser Liban, Syrie, Jordanie, comme moi j'ai fait il y a 7 ans.
Ouais, ouais.
Donc là, vu la situation politique, il y avait presque personne là-bas.
Puis, tu parles de climat politique. Est-ce qu'on... parce que tu es allé là de quelle période à quelle période?
Ben, je suis rentré dimanche dernier.
OK. Puis
je suis allé là une semaine seulement.
Une semaine, OK.
C'est pas un grand pays, hein?
Non.
Ils ont 3,5 millions d'habitants. Ils ont une dette d'à peu près 34 milliards. Quand j'ai dit notre dette québécoise à la guide, la venue aux yeux grand ouvert. J'ai dit, on est juste... le double de population, par regarde la dette qu'on a, là,
ah ouais,
elle n'en revenait pas.
Mais, voyons, ce que je voulais dire, c'est que c'était quoi le sujet du jour là-bas? De quoi les gens parlent?
On a parlé
c'est quoi qui préoccupe les gens?
Toutes sortes de choses. Moi, j'ai essayé d'éviter de parler de politique, parce que c'est toujours délicat. Hein? Le Liban, c'est un pays qui est 60% musulman, 40% chrétien, et dans ces chrétiens-là, il y a à peu près une vingtaine de confessionnalités différentes. Vous avez des Grecs orthodoxes, des Grecs catholiques, surtout des maronites. C'est un pays qui est très, très chrétien. Notre guide, visiblement, était chrétienne puisqu'elle nous a emmenés dans plusieurs sites chrétiens. Mais elle était aussi, avait des opinions politiques très arrêtées.
Okay.
Et quand on est approché de la frontière avec Israël, elle a dit, bon, nous sommes très près de la frontière avec la Palestine occupée. Elle a insisté sur l'expression Palestine occupée.
Ouais.
Nous l'avons remarqué, mais on n'a pas poussé la discussion plus loin.
Mais les gens du peuple, là, quand tu allais dans les restaurants, dans les complexes hôteliers...
Très
là,
à l'aise.
Les gens, c'est ça, je veux dire, sont... qu'est-ce qui les préoccupe?
On sent pas du tout que ce pays-là a souffert énormément, a été bombardé, a été... Beyrouth a été détruit quasiment à 100%
ben, c'est ça, ils ont,
dans les années 70. Moi, j'ai vu des différences avec les photos que j'avais prises il y a 7 ans. La place des Martyrs, par exemple, je me semblais avoir vu des palmiers là. Il n'y en a plus de palmiers.
OK.
Bon, ça, c'est les effets de la guerre qu'il y a eu il n'y a pas longtemps avec Israël. Mais c'est les gens n'aiment pas parler de leurs problèmes politiques là-bas. Ils aiment se prendre en main. C'est des gens qui aiment voir l'avenir. Il y a beaucoup... Vous aimeriez ça parce qu'il y a beaucoup de privatisation là-bas.
OK.
En santé et en éducation.
Ah oui?
Bon, j'en ai parlé un peu avec la guide. Et puis, ils sont peut-être plus avancés que le Québec à ce point de vue-là.
Donc, ils ont déjà pris le virage.
Ils ont pris un virage. Je pense qu'ils sont conscients. Ce sont des gens intelligents. Ce sont des gens qui sont laborieux. D'ailleurs, il y a une diaspora libanaise, on le sait. Regarde ici au Canada, extrêmement importante, beaucoup plus importante que les Libanais eux-mêmes dans leur propre pays.
Oui, effectivement.
Ils sont partout dans le monde.
Ah oui.
C'est des gens qui aiment s'aimer. Ils aiment aller s'instruire dans les grandes universités. Certains reviennent à leur pays.
Ils sont très nomades.
Extrêmement mobile, extrêmement nomade. Moi, c'est des bonnes personnes, les Libanais. J'ai des amis libanais, d'ailleurs.
Peut-être moins renfermés, justement, que certains Québécois le prétendent.
Peut-être un peu
parce
plus
que,
ouvert.
Puis, non, mais c'est parce qu'il faut faire le comparable. Puis quand on voyage, les cultures extérieures, il faut s'en abreuvoir ou s'en abreuver. Je ne sais pas si je viens de créer un verbe.
oui.
Mais effectivement, je pense que il y a tout le regard qu'on peut avoir à travers une civilisation comme ça qui a souffert. Là,
beaucoup souffert.
Ces calvaires-là, nous, on les a pas connus. Ouais. Puis eux, ils ont passé à travers tout ça. Puis aujourd'hui, si c'est moins omniprésent qu'on pourrait le penser, ben c'est déjà un signe que ces gens-là se sont relevés puis qu'ils ont passé à autre chose.
Ils se sont pris en main. c'est la grâce que je souhaiterais pour le Québec, se prendre en
main. Ben, parlons-en du Québec, puis parlons-en de tes souhaits, parce que on retrouve depuis quelques semaines, et c'est un constat que je fais, un Rénal beaucoup plus politisé qu'on aurait pu le connaître. Surtout, et là, première question, est-ce que c'est ton passage à travers le blog Les Analystes qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un Rénal aussi politisé, parce qu'avant, tu te concentrais sur des billets assez pointillés et qui traitaient assez souvent bon de sujets liés à la sismologie et des choses comme ça. Et là, on te sent beaucoup plus politisé, des billets sur, même, je regardais hier sur ce qui est arrivé à José Werner, le dossier José Werner, t'as écrit de nombreux billets dans les dernières semaines, donc qu'est-ce qui fait que tu es autant politisé?
Je pense qu'il y a deux raisons à ça. T'as souligné mon passage aux analystes, qui était extrêmement bénéfique, je pense, ouais, autant pour eux que pour moi. Maintenant, j'ai mon propre blog.
Oui, c'est ça, parce que là, il faut le dire.
J'ai appris du contact de ces jeunes-là, que j'admire beaucoup, comme Yann Sénéchal, Guillaume Simard-Leduc, Joanne Marcotte, qui sont dans les ligues majeures au point de vue politique. Moi, je suis un débutant, hein, même si je suis plus âgé qu'eux autres. Et ce sont des jeunes qui ont beaucoup d'ambition, qui ont des bonnes idées, qui ont formé un mouvement que j'admire beaucoup, auquel j'appartiens pas, hein. J'ai voulu garder une certaine neutralité. Ouais.
Mais t'as participé, faut le dire, parce qu'ici, on a parlé longuement du réseau Liberté Québec. On était présents, nous, de la deuxième événement, mais t'étais là, la première événement, donc t'avais fait...
D'ailleurs, Steve, je te dirais que ce mouvement-là a été semé chez moi, sur ma terrasse, que vous avez fréquenté.
Oui, oui.
L'été dernier, avec Joanne Marcotte, il y avait Guillaume, je pense, il y avait Yann, et puis on a parlé de ça, puis on a dit il faudrait peut-être qu'on forme un mouvement politique dans lequel moi j'ai pas embarqué, mais que après on formait, c'est devenu le réseau Liberté Québec avec la première rencontre qu'il y a eu ici au mois d'octobre à Québec, à laquelle j'ai été activement impliqué parce que j'ai fait avec Jacques Brassard un exposé sur ma vision scientifique du changement climatique, tandis que Brassard présentait la partie philosophique ou politique, si vous voulez. Donc, j'ai beaucoup aimé cette expérience-là, et c'est la première raison pour laquelle je suis devenu un petit peu plus politisé. L'autre raison, c'est que je suis un professeur d'université à la retraite. Il y a 10 ans, 11 ans, j'aurais pas osé me politiser parce que j'aurais perdu beaucoup de crédibilité.
Mais professeur... pas publiquement. Vous auriez pu être politisé, mais en privé.
Je suis un professeur de sciences, hein? Et puis, je suis pas un professeur de sciences politiques. Puis on sait qu'il y a des professeurs de l'université qui le sont très, très polarisés, soit vers la gauche, soit vers la droite.
Ouais.
Moi, j'ai toujours gardé un certain devoir de réserve vis-à-vis mon enseignement. C'est mes étudiants.
Pour ne pas la teinter, peut-être?
J'ai jamais, moi, diffusé mes idées politiques. J'en ai toujours eu, hein, une orientation politique, mais je ne l'ai jamais diffusé à mes étudiants.
Mais première question, est-ce que tu as déjà senti que d'autres professeurs, par contre, n'avaient pas cette rigueur-là que
absolument,
toi, tu pouvais?
Parce qu'à l'Université du Québec, à Chicoutimi, où j'enseignais, j'avais des profs qui étaient très, 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 je dirais même syndicaleux. J'aime pas cette expression-là, c'est péjoratif, mais ils étaient très près du syndicat. Et ils le faisaient clairement sentir.
Ils faisaient valoir leur valeur par rapport à leur contenu.
C'est des gens de gauche.
Ouais.
Hein? Et j'ai encore dans mes amis des gens de gauche qui sont restés à Chicoutimi, qui sont des très grands amis. On s'engueule pas. On a des discussions qui sont tempérées, très énergiques parfois, là. Mais on se respecte mutuellement.
Mais ça aide à développer notre pensée aussi, là, d'avoir des contre-arguments. Là.
C'est ça, puis ça aide à développer aussi la tolérance. Parce que s'il n'y avait que des gens de droite dans le monde, ça serait plate. Hein?
Oui, parce que contrairement à ce que... Puis il y a une infime partie des gens qui ont peut-être vu certains propos là et certains remous qu'il y a eu par rapport à certains de tes billets.
Tu fais allusion à la mise en demeure que j'ai reçue.
Entre autres, c'est allé, effectivement, assez loin.
Ça s'est réglé de façon assez...
C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, tu le dis, tu es à la retraite, mais...
À la retraite, Steve, là, tu peux te permettre d'envoyer promener du monde. Mais quand tu es encore professeur, tu es dans une institution, tu as un certain devoir de tolérance, de réserve, qui fait que tu peux pas envoyer promener.
Mais nous, ici, on essaie de valoriser justement les idées de responsabilité, de liberté individuelle. Il y a beaucoup de gens qui dans leur quotidien. Puis comme tu dis aujourd'hui, avec bon les réalités politiques aussi, le fait qu'on veut pas mettre notre famille, notre job en péril ou tout ça, il fait en sorte que on dirait que ça prend un certain temps pour le faire, ou faut être un peu aussi à retirer un peu du marché actif, où là on peut se permettre, comme tu dis, des écarts. Mais c'est triste de faire ce constat-là quand même, parce que d'un autre côté, comme tu le disais, il y a certaines personnes qui eux autres ont des orientations, on va dire plus à gauche, qui vont utiliser la sellette que va leur procurer soit leur travail, soit leur entourage immédiat. On sent beaucoup d'organismes qui sont politisés. On le voit, hein, les rassemblements syndicaux, il y a beaucoup de politique. Donc, on a l'impression que nous, qui sommes plus, on va dire, de droite, ou qui prônent des valeurs de responsabilité ou de liberté, on a plus de réserve. Et j'essaie de l'expliquer, effectivement, par, comme je dis, ces contraintes-là qu'on peut comprendre par rapport au monde extérieur, mais à quelque part, c'est difficile aussi d'augmenter le niveau de connaissance des gens par rapport à ça. Donc, comment tu penses qu'on peut arriver à arrimer ça? Parce que là, on peut pas attendre qu'on soit tous à la retraite. Il va peut-être être trop tard.
J'ai enseigné pendant toute ma vie la géophysique, une science. Bon. Je l'ai faite de façon relativement facile par rapport à ce que ça serait aujourd'hui, parce que cette science est devenue politisée.
Ben oui, aujourd'hui, avec les réchauffements planétaires, ben oui.
Puis la climatologie, qu'on le veuille ou non, c'est une partie de la géophysique, OK? Alors, quand j'entends des biologistes se prononcer sur le climat ou des météorologues, je me demande des fois s'ils parlent en connaissance de cause. La climatologie, l'étude du climat, et son évolution est une partie de la géophysique. Et moi, je suis un géophysicien spécialisé en sismologie. Bon, j'ai peut-être plus de base pour discuter de cette question-là. Donc, si j'avais enseigné aujourd'hui, 10 ans après ma retraite, les mêmes cours en géophysique, l'évolution de la Terre, tout ça, c'est certain que je donnerais une couleur politique à mon cours, parce que la question du climat n'est pas réglée. Contrairement à ce qu'on peut penser, là, nos gouvernements ont dit oui, il y a un changement climatique qui est causé par l'activité humaine, les gaz à effet de serre. C'est faux. Ça n'est pas prouvé, ça n'est pas réglé. Et j'utiliserai la tribune que mon université m'offrirait à l'intérieur de mon cours pour faire valoir mon point de vue, mais tout en gardant la rigueur qu'il faut. Parce que je suis un professeur de science. Je fais pas de la politique, je fais des observations, puis je tire des conclusions à partir des observations.
Dans une bonne proportion, disons que...
C'est ça. Donc, dans ce sens-là, l'enseignement de mon domaine, la géophysique, a évolué au cours des 10 dernières années à cause de grandes issues environnementales et climatologiques.
Dans le bon sens ou...
Je dirais dans le bon sens.
Oui, c'est dans le bon sens que ça soit enseigné de façon un peu politisée.
Peut-être que le mot politisé est mal choisi, je dirais, avec un esprit critique vis-à-vis les retombées sociales de la science.
Mais l'esprit critique, est-ce que c'est pas dangereux de tomber dans l'opinion personnelle?
J'ai déjà eu un étudiant, moi, il y a très longtemps, qui a refusé de travailler pour une compagnie minière qui explorait l'uranium parce qu'il était contre l'énergie nucléaire. Bon, pour lui, il y avait un problème moral. Mais c'est un étudiant en génie géologique. Mais c'était son problème. J'ai essayé d'argumenter avec lui, mais il n'était pas question. C'était un gauchiste, on peut dire. Il était polarisé. Pas question pour lui de travailler pour la compagnie pour laquelle j'y avais trouvé une job. Ça, c'était contre sa morale. Parce qu'on découvrirait d'uranium, avec ça on construirait des centrales nucléaires, on pourrait éventuellement fabriquer des bombes atomiques. Bon, c'était un peu réducteur comme raisonnement, mais c'était son opinion à lui. Il fallait que je la respecte.
Oui. Puis, revenons à ton côté politique des dernières semaines ou des derniers mois. Ce réveil se fait par rapport justement à peut-être, je veux pas dire un refoulement là que tu as accumulé, mais pour avoir cette attache beaucoup plus présente au quotidien, puis de l'exprimer comme ça dans des billets, c'est comment tu l'expliques? Puis parce qu'aujourd'hui, ce soir, on va attaquer quelques sujets justement d'actualité. Parce que là, les gens vont vouloir donner une crédibilité à tout ça.
C'est peut-être que, des fois, je suis déconcerté par l'orientation des issues que la société a choisi de discuter. Je vous donne un exemple, les fameux Nordiques et leur colisée. Ça me sort par les oreilles. Je suis plus capable. d'entendre parler de M. Labombe, puis de Amir Kadir et de tout ça. Il y a des choses bien plus importantes que ça.
Ah oui.
Il y a 33%, un élève sur trois ne termine pas son secondaire. Puis on veut des Nordiques. On parle jamais de ça. Il y a des issues bien plus importantes en santé. Il y a des listes d'attente énormes.
Hein? Mais tu avais fait référence dans un de tes billets à Wilfrid Laurier, hein?
Oui, qui disait que les Canadiens français, il n'y a pas du Québécois parce que le mot Québécois n'existait pas. Mm-hmm. Les Canadiens français n'ont pas d'opinion, ils n'ont que des émotions.
Et on est en train de le prouver,
C'est peut-être ce qu'on a vu aux dernières élections.
Oui, parce que justement, tu as fait un billet aussi là-dessus.
Là-dessus, oui, puis j'ai pas tapé du tout sur le NPD.
Non.
Ça a dû vous surprendre, hein, qui est un parti de très, 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 très à gauche.
Rénal, en
fait, je leur donne leur chance.
On a eu le même raisonnement que toi, parce que toi, en fait, tu dénonçais l'analyse qui en était faite, puis la suranalyse. Donc, tu dis attention aux analyses, aux analystes, parce qu'on se fait un plaisir aujourd'hui. Puis nous, on avait décrié ça aussi, et Danny avait lancé un appel, pas un cri du cœur.
C'est un cri du cœur.
Oui, il y avait ça, puis il y avait aussi le manque de rigueur des journalistes. Mm-hmm. Mais effectivement, il y a un gros côté émotionnel par rapport au vote, mais il y en a un surtout par rapport à la réaction aussi. Madame Brousseau, qu'on a monopolisé. Écoutez, on faisait parler de nous en Chine pour ces histoires-là, assez irrationnelles un peu à quelque part.
Oui.
Et comme tu dis, on a des dossiers importants, des grands problèmes. On a encore, puis pas juste du côté économique, hein, on parlera pas du grand chantier de la dette. Puis on a des choses très concrètes à adresser, puis on le fait pas. On monopolise, puis on dirait que le Québec entier suit la parade, comme tu parlais, de la bombe, que ce soit le maire Tremblay avec son vérificateur à Montréal. On entend parler de toutes sortes d'histoires, mais où sont justement ceux qui peuvent faire les garde-fous puis nous ramener par rapport à cette rigueur qu'on doit avoir en tant que personne responsable? Si on veut acquérir des points d'un point de vue liberté, il faut les attaquer.
C'est une situation qui est toute nouvelle au Québec. Et ce sujet-là a été discuté un peu au réseau Liberté Québec, avec raison. On a été traditionnellement porté à opposer le souverainisme versus le fédéralisme. C'est un mot que j'aime pas, fédéraliste, parce que moi, je suis pas un fédéraliste. Ne pas être séparatiste, ça fait pas de toi un fédéraliste. Mmh. Ça fait juste quelqu'un qui n'est pas séparatiste.
Exact.
Pas plus qu'un Breton qui veut pas que la Bretagne se sépare de la France, ça fait pas de lui un républiciste. Alors, on peut-tu arrêter de nous les casser avec le mot fédéral? Bref, on avait une polarisation entre les gens qui voulaient la souveraineté du Québec, ceux qui ne la voulaient pas. Là, on se dirige vers une polarisation tout autre, entre la gauche et la droite. Ça, c'est intéressant. Au Québec, on a des gens qui vont nous représenter au Canada vis-à-vis un gouvernement de droite et qui sont de gauche. Je ne sais pas si les Québécois, avant de voter NPD, puis de faire le grand ménage, puis de balayer tous leurs vieux députés, ont réalisé l'orientation politique des gens qu'ils élisaient. Ce sont des socialistes. Ce sont des gens qui sont très, très, très à gauche. Et là, comment ces jeunes-là, là, hein, qui sont dans la vingtaine, il y a un salaire de 150 000 piastres là, qui lui tombe dessus. Il y a des chômeurs là-dedans. Il y a des gens qui sont très, très modestes financièrement. Est-ce qu'ils vont être prêts à lâcher leurs 150 000 $ de revenus par année facilement ou s'ils vont s'y accrocher?
Parce qu'on s'entend
pour performer. S'ils veulent être réélus aux prochaines élections, il va falloir qu'ils montrent qu'ils ont apporté des choses à leurs électeurs. Et ces choses-là doivent s'harmoniser parce que c'est Ottawa qui fait cadeau. Puis c'est un gouvernement de droite. Puis eux sont de gauche. Comment est-ce qu'ils vont réussir à cohabiter? J'ai hâte de voir ça.
Ben moi, j'ai l'impression qu'ils vont prendre la méthode Gilles Duceppe. Ils vont que démoniser. Ils peuvent rien offrir. Donc, ils vont continuer à dire que Harper, c'est le démon, puis pour empêcher que ça arrive au Québec.
Toi, Danny, tu penses qu'ils vont jouer à la vierge offensée pour dire, regardez, le gros fédéral, comment ils sont méchants, mais ils sont eux-mêmes.
Et pas dans le sens souverainiste, là, sens là, que
gauche-droite.
Au lieu que ça soit souverainiste puis fédéraliste.
Vous voyez comment la droite ne tient pas en respect la veuve et l'orphelin.
Ça va être intéressant à observer. Autrement dit, le débat sur la souveraineté, il va s'éteindre. Puis il va faire place à un débat entre...
Mais au moins...
Il se fait partout ailleurs dans le monde, entre la gauche et la droite.
Mais c'est plus simple, on s'entend. Là, au moins, ça sera un débat d'idées. à savoir ouais. est-ce qu'on veut plus ou moins d'État. Mmh.
Qui est beaucoup plus sain qu'on veut-tu se séparer ou pas
c'est
séparer.
C'est ça, parce que nous, on le sait que la séparation du Québec amène plus d'État, parce que dans le modèle des séparatistes, c'est d'avoir à peu près un gouvernement partout pour tout. Puis tantôt, on le disait que les sociétés d'État, c'est un modèle révolu, puis il faudrait en sortir. Non, t'es pas d'accord
là-dessus? Moi, j'ai peur que ça ne vienne pas un débat d'idées, justement. Justement, à cause de mon cri du cœur de l'autre fois. Moi, je dénonçais que plus que nos médias analysent, plus qu'ils ne se fient qu'à des anecdotes. Alors que quand les médias deviennent être des suranalyseurs, ils devraient en venir à parler de philosophie de droite, philosophie de gauche, non? Plus qu'ils prennent du temps d'antenne pour analyser, plus qu'ils vont avec des anecdotes. Moi, j'ai entendu Jacques Sanson, la soirée électorale, là, dire que Gilles Duceppe avait eu une campagne électorale médiocre en 2000. Lui, il a dit ça, mais je voudrais que je vérifie si c'est vrai, mais lui, il a dit vraiment... Il dit, Gilles Duceppe a eu une campagne électorale médiocre en 2000. On se rappelle tous de l'épisode du bonnet. C'est pour Jacques Sanson, un analyste...
Il avait accroché là-dessus.
Ouais, lui, là, il a basé le fait que c'était une mauvaise campagne électorale parce que Gilles Duceppe s'est fait dire par un propriétaire d'une fromagerie, tu vas respecter les règlements dans ma fromagerie, là.
Autrement dit...
C'est rendu ça, là. Ils ont rentré en onde à 19h. Ils pouvaient sortir les chiffres à 21h30 pour parler de bonnet.
Ouais, ils sont restés superficiels plutôt donc, qu'aller à la racine.
C'est ça. Puis moi, c'est ça qui m'inquiète. On devrait l'avoir, le débat gauche-droite. Moi, c'est ça que je souhaite. Mais ils vont aller dans l'anecdote. Ils vont ressortir encore Julie Couillard pour Maxime Bernier. Ils vont ressortir plein de niaiseries comme ça encore.
Tu as tout à fait raison, Danny. Il faut qu'on aille aux racines. Mm-hmm. Voir qu'est-ce que la droite peut apporter de bon. Mm-hmm. Qu'est-ce que la gauche peut apporter de
aussi,
bon.
Oui, aussi. La gauche aussi.
Et c'est quoi la différence entre les deux? Mm-hmm. Il ne faut pas verser dans des excès, ni d'un côté, ni de l'autre. Mm-hmm. Ça ne sera pas facile.
Puis je pense que les médias ne le feront pas. Je pense que ça va se faire sur les blogs.
Oui, oui
sur
et non. Je dirais dans le Canada anglais, d'après moi, le débat va se faire.
Oui, plus. Ouais.
On sait que maintenant, il y a un réseau qui s'est créé. On parle d'un point de vue médiatique. Là. Mm. Il y a un nouveau réseau qui est là. Puis il y a certains autres réseaux, d'autres réseaux qui vont essayer de compenser là, l'offre. Mais au Québec, d'après moi, effectivement, on va rester avec nos raconteurs, ceux qui nous amènent les anecdotes politiques.
Nos émotions.
Oui, nos émotions. Mais c'est le réconfort, hein. On augmente l'indice du bonheur. On le sait au Québec, hein. C'est le gouvernement maintenant s'est donné le mandat de nous rendre heureux.
La bombe, donc, c'est ça aussi. La bombe
c'est ça aussi. C'est écoute, moi, dans le secteur, et là j'ouvre une grande parenthèse parce que les gens nous écoutent de partout à travers le Canada. Moi, je demeure ici dans la région de Québec et c'est honteux de voir l'état des rues. C'est honteux, là.
C'est un bonheur d'occasion.
Non, mais c'est terrible. Mm. Puis moi, je suis outragé de voir ça, puis qu'en même temps, on parle d'un colisée ou d'autres dossiers. Oui. Puis là, on ramène ça aux choses très terre à terre.
C'est quelqu'un sur mon blog a écrit un commentaire que j'ai beaucoup aimé, qui a dit que nos politiciens, comme M. Labeaume, préfèrent la gloriole en construisant des colisées, comme les pharaons construisaient des pyramides.
Oui. Ouais.
D'ailleurs, même les Romains, leurs aqueducs étaient pas souterrains. Hein? Ils étaient en forme d'arches genre McDonald's. Vous avez vu les aqueducs romains, comment c'était impressionnant. Hein? C'est des structures énormes. Donc, les gens qui règnent, comme M. Labeaume, aiment laisser du béton. Ils n'aiment pas laisser des choses qui sont pourtant fondamentales, les égouts et l'aqueduc. Hein? C'est en train de... À Montréal, c'est pareil. C'est mais encore pire à Montréal.
Est-ce qu'on est rendu des joueurs compulsifs avec l'argent public? Est-ce qu'on est rendu au point où... parce que là, c'est une dichotomie entre un discours justement de dire, écoutez, on est taxé, nos taxes municipales, on n'en peut plus. Et de l'autre côté, les gens sont très émotifs par rapport à un dossier comme ça. On est prêt à dilapider, aller avec un projet de loi. C'est rendu honteux de la façon qu'on est prêt à gérer un dossier qui, dans des États américains, dans d'autres villes canadiennes, c'est jamais né comme ça, là. Je veux dire, on tente de créer des précédents à peu près dans tout.
On est très émotif, on veut du pain puis des jeux. C'est ça.
Mais c'est parce que, normalement, dans l'évolution humaine, on n'est pas supposé d'être rendu à ce stade-là.
Il va falloir qu'on fasse des choix.
Parce qu'ailleurs dans le monde, puis tu as parlé du Liban, ailleurs dans le monde, quand tu voyages, la première chose qui te frappe, c'est ça, des sociétés qui se sont prises en main, qui ont, écoute, tantôt on a fait référence à l'Angleterre. Il n'y a pas juste l'Angleterre qui est un modèle aujourd'hui. Beaucoup de pays d'Europe.
Et tu te rends compte souvent que c'est culturel.
Oui, l'Allemagne.
J'ai visité Israël, un tout petit pays. Ils exportent des oranges. Ils sont très nombreux sur leur territoire. si vous voyez l'irrigation, les techniques d'irrigation que ce pays-là, ils ont transformé un désert en jardin. Puis pourtant, il y a des Arabes dans d'autres pays qui sont pas foutus de faire ça.
Ah oui.
Hein? C'est culturel.
Mais si on aborde l'angle culturel, à ce moment-là, on est un peu coincé parce que là, on sait qu'au Québec, en frais de culture, on est peut-être
trop petit peu dépendant de l'État. On aime avoir un filet social qui va nous... moi, j'ai un médecin privé, là. Tu sais, de Guerlas, là. Je suis arrivé de Chicoutimi il y a 4-5 ans. J'avais un excellent médecin là-bas qui était une femme admirable. Je n'ai pas de médecin ici. J'ai pas attendu de midi à 14 heures. J'ai pris une clinique privée. Bon, ça me coûte 1100$ par année, mais au moins, j'ai 2-3 visites. J'ai les rendez-vous que je veux pour les examens, les prises de sang, tout ça. Je suis prêt à payer. Je suis capable de payer. Quand est-ce qu'on va comprendre ça au Québec? Il y a une majorité de citoyens qui sont capables de payer et qui doivent payer. Il faut introduire le privé dans la santé. C'est fini cette affaire de santé gratos mur à mur. Il faut aussi un ticket modérateur. Ça va désengorger les urgences. Quand les ticounes qui ont mal à ci, mal à ça, vont savoir qu'il faut qu'ils payent 40 ou 45 piastres pour voir un médecin, quitte à être remboursé quelques mois plus tard, ils vont y penser deux fois avant d'aller engorger une urgence. Il faut un ticket modérateur. Là, j'empiète sur ton sujet, là, Danny.
De la troisième partie.
Ouais. Voilà. Mais justement, on va conclure là-dessus, puis on va aller faire une pause, parce que là, de l'autre côté, on a un gros sujet qu'on veut adresser avec toi. Puis j'invite les gens à consulter tes billets que tu écris sur ton blog. Peux-tu nous répéter l'adresse?
C'est WordPress.
Oui.
Je l'ai devant moi. Duberger.wordpress.com.
C'est ça. C'est bien simple.
Ouais. Donc, allez à cette adresse-là, allez lire les billets de Rénal, parce que...
Vous allez voir, Rénal se transforme devant vous.
Moi, je trouve qu'on assiste à une transformation, là, parce que...
Une transfiguration?
Non, mais je sais pas si tu pressens une carrière politique
ou si... J'ai passé l'âge, j'ai fait de la politique. C'est bon pour vous autres, les jeunes.
Ouais, mais regarde, les jeunes, justement, sont en train de monopoliser quasiment au Québec l'appareil politique. Ouais. Donc, c'est peut-être aussi, parce qu'on parle beaucoup des retraités, puis je pense que la contribution peut être assez importante. Et à lire tes billets, Rénal, tu commences à constituer, et là, comme tu dis, tu t'es accolé aussi à des gens comme Joanne, comme Yann. C'est des gens qui sont allergiques.
C'est pas des deux de pique.
Non, mais ils sont allergiques aussi à l'endettement, la présence de l'État dans nos vies.
Donc, au consensus.
Je partage tout à fait leurs idées politiques.
Hein. Donc, en ce sens.
L'autonomie. C'est des gens qui veulent que les Québécois deviennent des grands adultes autonomes qui se prennent en main puis qui arrêtent de dépendre des autres. C'est ça le réseau Liberté Québec, essentiellement.
Donc, on va faire une petite pause. On va s'installer comme il faut pour le gros sujet. Le temps aussi de prendre un petit rafraîchissement. Je tiens à souligner, là, Rénal, qui est encore là, nous est arrivé avec une bonne bouteille de vin.
De Nouvelle-Zélande.
Et en passant,
est moins cher à l'SAQ qu'en Nouvelle-Zélande.
Oui.
Ça va vous surprendre. Hein?
Mais effectivement, on en avait parlé, d'ailleurs, un moment donné, dans une autre vie, par rapport au prix qui était un peu plus élevé qu'on pensait en Nouvelle-Zélande.
À cause des taxes là-bas.
Oui, c'est ça. Ouais. Il y a d'autres endroits dans le monde qui sont pires. Quand on se compare, des fois, on se console, mais je dirais que là, sur ce volet-là, si on se compare avec nos voisins immédiats là, et non la Nouvelle-Zélande, parce que c'est ça, les comparaisons, hein, des fois, on va chercher le meilleur puis le plus mauvais modèle. Là. On a déjà fait la démonstration, d'ailleurs, ici, en début d'émission, comment on pouvait rejoindre un Léopold Lauzon et une Nathalie Elgrabi, sur un même modèle économique. Là. On est capable de...
Vous les avez réconciliés?
Ben oui, parce qu'on peut trouver son comble dans un modèle. Ouais. Donc, on va faire une petite pause et on se retrouve de l'autre côté. Donc, vous êtes à connaître la suite en compagnie de Danny, Steve et, ce soir, Rénal. On est de retour. C'était la dernière pause pour ce soir parce que là, on s'en va dans un bloc d'une trentaine de minutes. Comme on a dit, on va profiter du fait que Rénal est maintenant politisé et là, on va aller sur un dossier très, très chaud au Québec. Il n'y a pas plus chaud que ça, hein? Parce qu'en plus, on sait qu'au Québec, il y a une coalition qui nous pond des recommandations depuis maintenant quelques semaines. Ils ont présenté leur deuxième recommandation. On parle de...
La coalition pour l'avenir du Québec.
Oui, menée par François Legault.
J'ai lancé en joke cette semaine que la CSN est en congrès. Je dis, ils pourraient peut-être changer de nom. Appeler ça la coalition contre l'avenir du Québec.
Oui, c'est ça.
Les gens de la CSN n'ont pas aimé sur Twitter.
C'est un peu langue sale, ça.
Il faut bien faire de l'humour.
Ben oui.
Ben c'est ça, il y a deux sujets, entre autres, là, qui ont. Il y a deux plateformes qui ont été lancées par la Coalition pour l'avenir du Québec, qui ont touché à l'éducation à date. Et ils font un peu comme une effeuilleuse, hein, ils vont tranquillement, là, sont rendus à la santé. Puis tout ça, puis on voulait regarder ça d'un angle. On voulait avoir l'opinion de Rénal là-dessus.
Puis du
entre
fait que, écoute, combien d'années dans le réseau d'éducation?
Moi, j'ai été 33 ans, professeur.
33 ans, là.
Ouais.
Et la retraite remonte à quand?
Ça fait 10 ans, presque 11 ans maintenant.
Donc, ouais. Mais tu es quand même assez actif, là.
Oh oui, j'ai gardé contact
oui.
Avec parce que dans les écoles
ben régulièrement. C'est ça, tu te promènes maintenant. Ouais. Dans,
je vois
t'enseignais au niveau universitaire, puis là maintenant
ouais.
Tu te promènes au niveau secondaire.
Puis j'ai eu une idée juste avant l'émission pour le fun. Je sais pas pourquoi que j'ai pas eu l'idée avant. J'ai dit je vais aller voir sur le site de CNW qui sont une firme qui lance des communiqués de presse. Puis je suis rentré Coalition pour l'avenir du Québec là-dedans et là on me défile tous les titres des communiqués de presse qui ont été lancés dernièrement et c'est très drôle de voir les titres de certains groupes de pression là qui ont quasiment détruit chaque chose que la coalition a dite. Donc juste quelques titres comme ça. On dit entre autres lorsqu'ils ont parlé de la santé de l'éducation, entre autres la CSQ que c'était écrit « Les propositions de la Coalition pour l'avenir du Québec n'amélioreront pas le système d'éducation. » Donc ça, c'était le titre de leur communiqué de presse. Ensuite, on dit « La CSAQ, je ne sais pas c'est quoi, dénonce les propositions de M. Legault comme étant simplistes et à courte vue. » On le dirait pas comme ça, mais on est peut-être un petit peu d'accord avec ça. On va en discuter tantôt, mais quand même. « La plateforme éducation avancée par en arrière. » Un autre titre de communiqué de presse. Donc on voit que le changement là parmi les groupes sociaux ça veut pas passer. Il y en a même que moi là, juste vous dire quand ils ont lancé justement la première plateforme là sur l'éducation là, je cherchais dans les médias sur le web, je cherchais qu'est-ce que M. Legault avait présenté, je ne le trouvais pas, je ne voyais que les réactions des groupes de pression. C'est eux qui étaient...
Tu voyais la réponse, mais tu n'avais pas le sujet.
Là, je cherchais, j'ai dit, ouais, mais ils vont faire quoi?
Ça ne te montre pas la puissance des syndicats au Québec?
Ben, c'est très, très fort. Hein? C'est incroyable, mais je veux dire, comment...
Tu n'as que des réactions.
Exact. Comment ça peut pas être la première manchette, c'est ce qu'il a proposé, et les répliques sont dans les petites manchettes. Non, c'était l'inverse. Il a fallu que je fouille, puis que finalement, j'aille sur le site de la coalition pour avoir mes réponses, parce que il n'y avait de publié que les réponses négatives au sujet. Donc, j'ai trouvé ça un peu spécial, donc de voir les réactions assez rapides de là-dessus. Dans le document sur l'éducation, donc on va commencer par ça avec Rénal, entre autres, on parle ici, il y avait intitulé ça « Se doter de l'un des meilleurs systèmes d'éducation au monde d'ici 2020 ». Donc, c'était des ambitions assez rapide pour changer un paquebot là, qui veut pas bouger, là, qui est très difficile à bouger. Ou lorsqu'on l'a fait bouger, on l'a peut-être pas envoyé dans la bonne direction. On voit peut-être la réforme de Pauline Marois. Puis ça, j'aimerais en discuter avec toi tantôt là, là-dessus. Donc, on donnait différentes initiatives. Eux, ils parlent d'initiatives. Donc, la première initiative, c'était un nouveau pacte pour les enseignants. Donc, on parlait entre autres d'augmentation de salaire en échange d'être évalué, d'avoir des évaluations de rendement et tout ça. Ensuite, on parlait plus d'autonomie pour les enseignants et les directions d'école. Donc, on parle de fusionner les commissions scolaires et non des éliminer. Donc, on parlait de fusion là-dedans. Et le troisième point, on disait on veut plus de diplômés collégiaux et universitaires. Et on proposait, entre autres, d'aller chercher de l'argent pour pouvoir augmenter justement le financement des universités, entre autres en allant chercher des économies d'Hydro-Québec, entre autres. Mais ça... vu que c'est pas très transparent, les états financiers, je sais pas comment ils ont pu déduire qu'ils réussiraient à aller chercher ça, mais quand même, c'était un peu ces points-là qu'ils avaient proposés. Donc, on voulait avoir l'opinion un peu de Rénal, puis partir de la discussion autour de ça. Entre autres, qu'est-ce que tu trouves là, là-dedans? Puis t'as un billet sur ton blog qui parle justement de l'éducation. Donc, peut-être partir de là.
J'ai commencé une tétralogie, si on peut dire.
Oui, parce que c'est la partie 1. Oui,
c'est le chapitre 1 que t'as.
Le chapitre 1 qui concerne le ministère.
Ouais.
D'ailleurs, Ça part mal. Le ministère de l'Éducation, du Loisir et des Sports.
Ouais.
Voulez-vous une petite condition féminine avec ça, là? T'sais, c'est quoi cette manie qu'a le Québec à tous les 5-6 ans de changer les noms de ses ministères? Toujours la même vieille tambouille. Et Énergie et Ressources, on se situe avec la faune maintenant, ou les parcs sont où, là? Puis les couleuvres brunes, là, du viaduc... de l'échangeur Turcot. On va y mettre dans quel ministère? Bref, là, vous voyez le cirque dans lequel le Québec s'engouffre. Ils changent l'étiquette, mais les fonctionnaires restent là. Mm. C'est toujours la même philosophie. Donc, oui, l'éducation au Québec est malade. Il y a péril en la demeure. Il faut faire quelque chose.
2020, pour toi, est-ce que c'est un horizon qui est...
C'est pas réaliste.
Trop loin ou trop court?
C'est trop court.
Trop court?
Ah non, parce qu'on est ancré dans des habitudes, dans une bureaucratie, avec un nombre formidable de fonctionnaires qu'il va falloir mettre à la porte, avec courageusement. D'ailleurs, quelqu'un a posé ça, rappelez-vous, au Réseau Liberté Québec.
Quand est-ce comme qu'on question, va voir des boîtes?
Comment est-ce qu'on fait pour mettre 50 000 fonctionnaires à la porte, jour au lendemain, tu sais? Quand on sait que c'est ça, c'est un des gros problèmes. L'énorme machine bureaucratique du ministère de l'Éducation. Et c'est là-dessus que j'ai fait mon premier billet. Hein? Puis le ministère de l'Éducation, c'est le chef d'orchestre. Puis il est beaucoup trop présent. Il est beaucoup trop important. Il faut diminuer son importance. Le rôle du ministère de l'Éducation, c'est de fixer des objectifs de formation, d'éducation.
De contenu.
Le contenu, je dirais que je le mettrais beaucoup plus aux responsables, les enseignants et les directeurs d'école. Mais les objectifs, quand on sait qu'est-ce que doit devenir un citoyen au point de vue de l'éducation...
Mais le contenu, je posais la question parce qu'on sait que les examens finaux sont assez souvent orchestrés par le ministère.
Ouais.
Puis ils sont... assez souvent d'ordre général.
On peut questionner ça aussi.
Ouais, hein?
Moi, j'étais professeur d'université. J'aurais mal accepté qu'il y ait un examen national de géophysique dans la branche que j'enseigne. Par contre, il y avait un ordre professionnel des ingénieurs qui faisait que si je livrais pas la marchandise, mes étudiants auraient été mal formés, puis éventuellement, sur le marché du travail, il y aurait eu des problèmes. Alors, vous voyez, est-ce qu'il est nécessaire que le ministère d'Éducation soit aussi omniprésent dans le contenu des cours? La liste des cours, c'est quoi la fonction de l'école? Moi, j'entendais, M. Legault a déjà dit, il y a bien des années, je l'ai entendu dire, l'école est un milieu de vie. Non! L'école... est un milieu, est une institution dans laquelle on apprend le français, l'anglais, l'histoire, la géographie, la géologie, la biologie, la physique, la chimie, l'économie et les arts et la culture. Point. Pas de place pour le sport à l'école. Là, je vais faire dresser des cheveux sur la tête à pas mal de vos auditeurs. Le sport n'a pas sa place à l'école. La récréation, une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, a sa place. La fonction du sport, c'est de garder le petit gars et la petite fille en forme, puis de l'amuser, de le détendre. Ça peut se faire en dehors de l'école, ça. Si les parents prenaient leurs responsabilités, les villes l'ont déjà fait, contrôlent les infrastructures sportives. Hein, les parents vont reconduire le petit gars à telle place, la petite fille à telle place pour son partie de hockey. C'est pas à l'école de faire ça. Abolition des programmes sport-études. Même si j'ai vu dans les écoles que j'ai fréquentées, des étudiants beaucoup plus performants dans les programmes sport-études. J'abolirais ça tout de suite, moi. Le sport, la démarche sportive n'a rien à voir avec la démarche intellectuelle d'apprentissage. C'est deux démarches complètement différentes. Je dis pas que c'est incompatible, mais là, M. Legault mentionne aussi qu'on consacre pas assez de jours
à l'étude.
Et d'heures aussi. Comment ça se fait que les autobus scolaires, ça commence à décoller à 3h, 3h30 d'un cours de polyvalent? Pourquoi que ça décollera pas à 5h? Pourquoi que les jeunes marchent pas à l'école? Pourquoi qu'ils ont des autobus scolaires? Je marchais à l'école, moi. Beau temps, mauvais temps, pluie, neige. Hein? La patinoire, c'est pas un payloader de la commission scolaire sous-traitant qui a dégagé. C'est nous autres, les petits gars avec des pelles. Pourquoi qu'on reviendra pas à ça, l'exercice physique? Mais non, on a tranquillement glissé vers la facilité.
Ouais, mais là, aujourd'hui en espadrille avec les pantalons qui couvrent à peine les cuisses.
Ils s'en vont à l'école en t-shirt, là, ils font 10 en bas de zéro.
Mais il y a l'éducation aussi là-dedans.
Hein? Oui, il y a tout. C'est pour ça que je te dis 2020, c'est un horizon qui est pas mal trop rapproché. Ça va prendre plusieurs générations avant qu'on ait un système d'éducation qui soit adéquat au Québec.
Donc là, ce qu'on entend par contre, c'est le moyen de raccrocher les gars, c'est le sport, comme si tous les gars étaient sportifs.
Pas du tout.
J'ai toujours trouvé ça drôle. T'sais. Moi, là, il y a une des propositions, je sais pas si c'était de lui ou j'ai entendu ça, là. Ah, on va lui donner, non, c'est Jean Charest, on va leur donner un gilet. Un gilet de la polyvalente, ça va lui donner un sentiment d'appartenance. Je lui dis, regarde, le petit gars, là...
Ah, mais lui, il passait aux gangs de rue en pensant à ça, là.
Ouais, mais c'est justement vers là, je m'en vais. Imagine le gars, là, qu'à chaque fois qu'il se rend à l'école, là, il se fait faire du taxage, puis tout ça, là. Lui, là, l'école, là, pour lui, là, c'est pas un symbole positif, là. Donc, le petit T-shirt, là, qui a le logo de la polyvalente, là, je pense pas que ça va être valorisant pour lui, là. Le petit gars, lui, qui c'est sur la culture, qui tripe, puis de le théâtre, là. Il y aura beau avoir huit équipes de football à l'école, là, tu ne réussiras pas à accrocher celui-là qui veut faire du théâtre.
Il faut reconnaître que l'école, c'est un endroit où, comme j'ai dit tantôt, on apprend anglais, français, etc. C'est pas un endroit où, j'entendais quelqu'un dire, un petit gars, faut que ça bouge. Hein? J'ai un de mes billets là-dessus. Là. Oui, il faut que ça bouge, mais pas à l'école. L'école, tu te tiens tranquille, tu respectes tes professeurs qui sont plus grands que toi, qui vont te montrer des choses pour qui vont t'aider à devenir un homme, point. Tu bougeras quand l'école sera finie. Hein? Tu iras, tes parents t'amèneront en patinoire pour bouger. Mais ça, ces arguments-là, là, un petit gars, faut que ça bouge, là, je m'excuse, ça marche pas. On peut aussi regarder s'il n'y a pas lieu, il n'y aurait pas lieu de retourner au système de classe séparée, garçon-fille. Hein? Moi, quand je vois le petit Kevin, là, qui a la petite Sabrina en arrière, puis la petite Jessica à gauche, puis l'autre en avant, puis qu'il y a la grosse boutonneuse en avant qui essaie d'y montrer d'extraire une racine carrée, puis la petite Jessica a son t-shirt assez aguichant, puis le nombril à l'air avec un anneau dedans, c'est pas un climat qui favorise l'apprentissage des mathématiques. Hein?
Surtout aujourd'hui que les mœurs sont éclatées. Et...
Surtout parce qu'ils savent comment enfiler un condom au bout d'un manche à balai, mais ils savent pas accorder un participe passé. On a glissé vers ça. C'est ça notre beau système d'éducation moderne.
Mais qu'est-ce qui... Parce que moi, j'ai sorti du système, on va dire, au tournant en 90, pour ne pas nommer l'année.
La polyvalente de l'ancienne Lorette.
Oui, puis j'avais quelque part un hybride dans ce que tu... Avec ce que tu racontes là et ce que j'avais, donc, ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le Québec d'aujourd'hui, on est rendu, justement, comme tu dis, avec des milieux de vie? L'école est considérée comme un milieu de vie,
facile.
C'est ça, comme une mini-société.
Et là, puis... tu mets le doigt sur quelque chose d'important, le sens de l'effort. La notion de l'effort n'est pas du tout valorisée dans notre société québécoise moderne. Tout doit être facile.
C'est le nouveau bulletin qui a amené ça.
Le nouveau bulletin ou la réforme ou les nouvelles méthodes d'enseignement du français, des mathématiques, ça doit être doux. Faut pas que ça heurte. Je m'excuse. Toute démarche intellectuelle qui fait que un enfant va devenir un homme, ça fait mal.
Et là,
c'est douloureux.
Je sens mon Danny là-dessus que ça vient allumer quelques cloches parce que lui, il est dans l'enseignement aussi au niveau privé. Puis tu me racontais que en bon québécois, t'as donné une rince à tes élèves.
J'ai donné un examen comme moi quand j'étais au collège. Quand moi-même j'étais au cégep, je les ai fait travailler pour leur examen et je me suis fait, ils se sont mis à gang pour me le reprocher. Mais j'ai dit, moi, j'étais très clair dans mes exigences. J'étais très clair sur ce que serait l'examen et vous en avez pas tenu compte. Donc, il y en a la moitié qui ont pas passé l'examen et j'ai dit à l'école, je ne augmenterai pas les notes.
Ouais.
C'était clair. Et moi, ce que je me suis rendu compte, peut-être là, vu que tu ouvres le sujet, là, moi, ce que je me suis rendu compte, puis c'était Radio Choc dans le temps, j'avais parlé justement là, de mon début dans l'enseignement collégial, puis je disais, oh, la réforme a l'air d'être pas pire pour les étudiants. Parce que je viens d'avoir les premiers étudiants qui sortent du secondaire, qui arrivent au cégep, qui ont subi la réforme au complet dans leur cheminement scolaire. Okay? Et quand j'avais dit, ça a l'air d'être bien le système, c'est parce que je venais de leur faire un travail long avec une présentation orale. Ils se sont très bien débrouillés. Mais lorsqu'il vient le temps de leur faire un examen de connaissances avec on enlève les fautes de français, ils sont pas prêts pour tout. Et je viens de le revoir encore. J'ai terminé ma session la semaine passée. Ouais.
Et là,
c'est exactement la même affaire. Ils ont fait leurs travaux longs. Excellent. Je les ai félicités. Je capotais comment ils ont bien travaillé pour leur travail long. Mais pour un examen où est-ce que c'est du clérical, et faut que le français soit bon, ils sont pas performants.
Ouais. Les élèves, ils sont plus ce qu'ils étaient il y a 20, 30, 40 ans. Parlons des enseignants. Ça, c'est moi, je vais dans les écoles.
Ouais.
Pendant toute ma carrière à Chicoutimi, j'ai fréquenté des enseignants secondaires. Pourquoi? D'abord parce que il y avait besoin de géologie dans leurs cours et aussi que moi, j'avais besoin d'étudiants en géologie. C'était pas facile. La biologie est enseignée partout, mais pas la géologie. Et j'ai vu des enseignants extrêmement dynamiques. On a un exemple. Il y avait 4 enseignants de Normandin. Ils ont décidé d'organiser une fin de semaine à Chibougamau avec leurs élèves. Il y a un de ces enseignants-là qui avait son permis de chauffeur d'autobus. Ils ont loué un autobus scolaire. Ils sont partis les 4 avec une quarantaine d'élèves, puis ils m'ont amené comme moniteur, si vous voulez, pour la fin de semaine, une fin de semaine de 3 jours. T'allais à Chibougamau. Je les avais préparés, les élèves. J'avais amené à l'école des collections de roches minéraux pour leur, tu sais, pas qu'ils tombent des nus, là. T'es arrivé à Chibougamau, t'es allé dans les dombes de mines, dans les, tu sais, les londombes, les stériles des mines. Jusqu'à 10 heures le soir, il a fallu allumer les phares de l'autobus scolaire. Ils piochaient là-dedans avec le marteau, puis ils en mangeaient de la géologie. On a visité des mines. On leur a montré la coulée d'un lingot d'or. J'avais la fille d'un de mes amis qui était directrice d'un moulin de mine à Campbell. On est arrivé vendredi soir, elle était en train de couler un lingot d'or. Imaginez une expérience pour des jeunes de secondaire qui voient ça. Mm. Chapeau à ces quatre enseignants-là. Sauf que il n'y a aucune structure qui permet à l'heure actuelle de récompenser ces enseignants performants. Mm. Monsieur Legault propose d'augmenter le salaire de 20 à 30 %. Puis il propose une évaluation, mais c'est comment elle va se faire l'évaluation? Moi, je propose un ordre professionnel des enseignants.
Oh!
Ouais.
Je vois. Donc ça, c'est... En plus de l'abolition des programmes sport-études, là, on touche un autre gros...
Oui. Quel est le but d'un ordre professionnel? C'est de protéger le public contre le professionnel. Moi, je fais partie de l'ordre des ingénieurs. Le but de l'ordre des ingénieurs, c'est de protéger le public
contre... C'est important ce que tu dis là.
C'est ça. Pour s'assurer que le public reçoit des services de qualité qui font que le public est en confiance. Mm. Même chose pour l'enseignant. J'ai scandalisé le président de la CSQ dans la mise en demeure qu'il m'a envoyée. Il avait des attendus. Il avait même souligné que j'avais déjà dit sur un de mes billets que je trouvais qu'il y avait un enseignant sur deux qui n'avait pas sa place comme enseignant. Mm. Bon, il a trouvé ça fort. J'ai pas fait d'enquête, sauf que c'est après 30 quelques années, presque 40 ans de visite dans les écoles, c'est ce que je perçois. Il y en a un sur deux qui n'a pas sa place là. Il devrait aller vendre des autos plutôt qu'enseigner. Le rôle d'enseignant est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'il l'était il y a 20 ou 30 ans parce que le jeune est soumis à un paquet de stimuli sexuels avec les petits déchicots dont je vous ai parlé tantôt, avec des petits t-shirts, des anneaux dans le nombril, puis des textos, puis un paquet d'ordinateurs, puis... Hein? Si vous ne le tenez pas on pendant... vous n'êtes pas capable de le tenir on pendant une heure, à moins d'être un bon showman. Mm. Un professeur, c'est un bon showman. C'est un gars qui est capable de transmettre sa passion pour sa matière à ses élèves. Mm. Il y en a un sur deux qui est capable de faire ça. Un sur deux. Mm. Les autres devraient faire autre chose. J'irais même plus loin. Il y a un étudiant sur trois dans les universités qui n'a pas sa place à l'université, qui devrait être ailleurs. Ça coûte de l'argent à la société, ça. Il devrait faire d'autres choses. Je le vois dans les examens que les étudiants subissent en sortant de la faculté de sciences de l'éducation. Il y en a plusieurs qui échouent le test de français. Pourtant, ils vont être des enseignants. Donc, ordre professionnel des enseignants avec un syndic, avec un système d'évaluation, mais de promotion. M. Legault ne parle pas de ça. Quatre catégories de professeurs ou d'enseignants. Enseignants assistants, enseignants réguliers ou professeurs réguliers, professeur agrégé et professeur titulaire, comme on a à l'université, un comité d'évaluation par école et un comité de promotion par région, auquel siège quelqu'un qui ne connaît pas le professeur qui a demandé sa promotion ou qui est évalué. Comme moi, je l'ai été quand j'étais à Chicoutimi, pour passer d'une catégorie à l'autre, dernière catégorie, il y avait sur le comité de promotion de l'université un vice-recteur qui ne me connaissait pas, qui appartenait à une autre université. Mm-hmm. Hein? Et pour donner de la crédibilité à la démarche d'évaluation et de promotion. Parce que si tu es évalué par ton directeur d'école avec qui tu prends une bière tous les vendredis, ça vaut quoi? Mm-hmm. Ça vaut peut-être quelque chose, mais c'est pas crédible.
Ben, c'est ça.
Hein? Donc, il faut un processus d'évaluation et de promotion. M. Legault parle pas de ça. Mm-hmm. Hein? Les bons professeurs vont être récompensés. Comme ces quatre-là de Normandin qui ont eu une initiative pédagogique. Et ça, pour qu'il y ait une initiative pédagogique, il faut enlever le carcan du ministère qui les oblige à un contenu. Voyez? Il faut que le professeur puisse être libre, à une latitude d'enseigner des choses qui ne sont pas enseignées dans une autre école, dans son cours, à condition de répondre à des objectifs. C'est ça l'autonomie.
Mais le syndicat, on le place où à ce moment-là dans cette échelle-là?
Le syndicat, moi, je le foutrais dehors. C'est les professeurs qui veulent être protégés.
Mais c'est peut-être pas l'erreur, justement, qu'on fait. Puis,
Steve, j'ai déjà démissionné de mon propre syndicat à l'Université du Québec à Chicoutimi pendant 3 ans. J'ai exigé qu'il y ait un code d'éthique qui respecte l'étudiant.
Oh oui, non, mais je comprends peut-être ta démarche, mais on sait qu'aujourd'hui, puis Danny en a fait justement la référence là par rapport au communiqué de presse qu'on a vu apparaître sur les filières de presse. On sait qu'aussitôt qu'on s'attaque à ces réformes-là, on fait, hein, 1 plus 1 égale 2, puis là, le 2, c'est les syndicats, puis comment est-ce qu'on peut adresser, parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, c'est ce qui freine ces réformes-là.
C'est les syndicats. On va-tu en finir à m'adonner avec ces foutus syndicats-là? Vous voyez ce qu'ils font avec leur argent? Ils m'envoient des mises en demeure.
Ben, c'est ça, justement.
Mais moi, c'est drôle, hein? Moi, je vois pas... Je sais pas, je suis peut-être pas normal, mais moi, je vois pas que c'est le problème du syndicat. Le syndicat le demande, mais il y a quelqu'un qui lui donne.
Je sais pas que c'est le problème. Le syndicat est une conséquence de notre inertie.
Moi, je dis toujours la nature horreur du vide, là.
Si on avait que des professeurs compétents, dynamiques, heureux dans leur domaine, qui sont capables de transmettre leur enthousiasme à leurs élèves, ils n'ont pas besoin de syndicat.
Mm-hmm.
Il n'y aurait pas de conflit.
Ce que je veux dire, là, c'est quand, mettons, là, les syndicats font un front commun puis ils disent, nous autres, on va aller négocier là, avec contre Jean Charest. Si c'est Jean Charest qui se met à plat ventre, c'est Jean Charest le problème. Les syndicats, ils vont le demander, ce qu'ils veulent avoir.
Oui, je comprends.
Parce que je comprends ton point de vue. Je donne souvent l'exemple, là, pas ici, mais sur mon blog, de l'histoire où est-ce que j'ai travaillé dans deux entreprises presque pareilles. Une qui se couchait devant les syndicats, puis une qui avait dit, c'est nous autres qui a le pouvoir de gestion. Puis c'était carrément différent. Les chiffres étaient meilleurs. Les employés, où est-ce que c'était plus serré contre les syndicats, étaient plus heureux que l'entreprise
mais
qui était lousse.
On peut tous entendre les trois pour dire que c'est une partie prenante et il faut trouver le moyen d'interagir et de les inclure dans ces réformes-là. Puis je suis d'accord.
C'est les inclure.
Puis toi, ce que tu dis, Danny, c'est ça, c'est des inclure. Mais c'est ça, c'est de nier le show pareil. C'est pas de leur laisser nier le show de la réforme.
Ils sont beaucoup trop puissants à l'heure actuelle.
Mais ils sont là.
Je veux qu'on en vienne à un autre acteur
qui
s'appelle le parent. Le ou les parents, parce qu'aujourd'hui, on a des familles monoparentales. Bon, je vous donne un exemple. J'étais allé faire une formation au printemps dernier, à l'automne dernier, d'enseignants en sciences dans une commission scolaire. Une vingtaine d'enseignants de sciences. Ils ont adoré la formation que je leur ai donnée. Je leur ai dit, pourquoi vous amenez pas vos étudiants sur le terrain en excursion géologique? Ouais, ben il faut un autobus scolaire, puis ça coûte cher, tout ça. Pourquoi on fera pas ça le samedi? Pourquoi vous demanderiez pas aux parents qui ont des autos transporter des petits gars et des petites filles, amener les professeurs, puis les parents vont aller sur, vont les amener au pied des chutes Montmorency, leur montrer les shales, puis du gaz de shale, d'où ça vient, la feuille de Logan, on les amener voir des choses géologiques extrêmement intéressantes. Les parents ne se sentent pas concernés par l'éducation. Ils ont relégué beaucoup de leurs responsabilités, ce qui fait qu'on a un paquet de cours bidons à l'école, là, genre éthique et culture religieuse, le monde contemporain. Hey, bullshit! Ouais. Tu peux mettre n'importe quoi là-dedans? On est dans le monde, ici, dans le studio, le monde contemporain, hein? Donc, les profs qui sont souvent gauchistes peuvent faire passer leurs idées dans ces cours-là au lieu d'enseigner des sciences. Bon. Moi, je te foutrais ça dehors. Monde contemporain, éthique, culture religieuse, tous ces cours de morale, c'est la responsabilité des parents. Comme pour les sports, c'est les parents qui doivent assurer le sport. Mais les parents abdiquent. Comment voulez-vous que le petit Kevin qui veut décrocher, là, son père a décroché, il vient de divorcer. Comment voulez-vous que le père soit crédible quand il dit au Kevin de ne pas décrocher quand lui-même, sa vie conjugale est un échec? Comment voulez-vous qu'il reproche à Kevin que sa vie scolaire ne soit pas un échec? Il faut être consistant quand même. Il faut que le parent donne l'exemple.
Puis ce qui est drôle, façon de parler, c'est que l'État a décidé de prendre en charge les enfants maintenant à quoi, 18 mois?
Oui.
Et les parents se sont laissés faire.
Oui. Il est fou dans les garderies.
C'est ça, les parents auraient peut-être dû se lever.
Ils ont des pseudo-parents qui s'appellent des préposés de garderie, qui changent les couches, puis qui donnent les biberons, puis tu sais... Puis ça finit par les couches aussi, quand les vieux vont être dompés dans des CHSLD. Mais là, ils pourront peut-être... les enfants pourront se venger parce qu'ils vont domper leurs parents, parce qu'eux ont été dompés dans des garderies. Ils vont domper leurs parents dans des CHSLD plus tard. C'est bien triste de voir ça. Et c'est pas propre au Québec, hein? Ça se fait en France aussi. Ils appellent ça des crèches là-bas.
Mais c'est la prise en charge de la naissance jusqu'à la mort. L'État a pris la place, puis personne ne s'est battu contre ça.
Exactement. L'État devient un filet social qui prend soin de tout le monde. Tu n'as plus besoin d'avoir de responsabilité. Et je reviens au réseau Liberté Québec, qui combat justement cette attitude, qui veut que le citoyen devienne autonome et responsable pour que l'État prenne le moins. Oui, l'État est nécessaire, mais pas de façon... Il ne faut pas que ça soit une chape comme c'est aujourd'hui, qui régit tout, hein, qui t'oblige de penser. C'est rendu qu'ils ont banni bien des affaires d'un cafétéria d'école. Ah. Ils vont jusqu'à interdire l'installation de fast-food à moins d'un kilomètre des écoles. On est rendu loin, hein?
Ouais.
Tu sais, les jeunes et leurs parents ne peuvent même plus prendre de décision. C'est l'école qui les prend à leur place. C'est le ministère.
Ouais. Mmh. Effectivement. Puis ça, on voit, là, c'est quoi? C'est Baie-Saint-Paul là, qui veut interdire les fast-food? Je m'en vais justement là, lundi, mardi.
Ben, c'est rendu là.
Mais c'est vrai que vous touchez là, puis je peux comprendre aussi que l'appareil s'alourdit quand on regarde les corps de métier maintenant dans une commission scolaire. Là.
C'est incroyable. J'attendais dans mon auto, puis j'avais un dépliant de la commission scolaire que je nommerai pas, là, puis je regardais le nombre de fonctionnaires qui travaillent là-dedans, puis j'imaginais les salaires impliqués. Ça ne sert pas aux élèves du tout. Hein. Mm. C'est juste de la bureaucratie, puis c'est juste du contrôle.
Ben ouais.
Je réintroduirais, par contre, les inspecteurs d'école. Je suis pas contre.
Ah ouais.
Puis moi, je pense que je ferais un bon inspecteur d'école.
Ça serait quoi leur rôle?
Ça serait d'aller voir
des
comment,
auditeurs.
Qu'est-ce qui se fait dans les écoles? Qu'est-ce que les élèves apprennent? Je vous donne un exemple. J'arrive dans une école en Beauce où je devais aller faire une présentation aux élèves sur le métier d'ingénieur. J'arrive là, il n'y avait pas un chat dans la salle des professeurs. Il y avait un babillard, comme vous avez, là. C'était marqué « Bonne fête, Manon ». Il y avait un autre babillard dans le corridor. Ma visite n'était même pas annoncée. Il n'y avait pas la responsable qui était une suppléante, ça c'est une autre affaire, elle remplaçait la vraie personne qui était malade, n'avait pas annoncé ma venue. J'ai eu 4 étudiants qui sont venus m'écouter, mais par respect pour eux autres, j'ai fait quand même mon laïus, ben, du mieux que j'ai pu. Mais il y avait un paquet de... La télévision était allumée sur LCN, ça en dit long sur les... il y avait un paquet de CD copiés, piraté. Ah ouais. Je ne sais pas s'il y avait des professeurs de morale dans cette salle de choses-là. Là. Mais j'en ai conclu des choses. Pourquoi que les parents vont pas faire des visites surprises dans l'école où leurs enfants sont enseignés pour aller voir qu'est-ce qui est enseigné, puis ils rentrent dans la classe. Hey, qu'est-ce qu'il raconte le prof à mes élèves, là? Le petit ours polaire que je vous ai déjà servi sur son glaçon qu'ils font, là.
C'est exactement ce que j'allais dire. Les gens les parents vont magasiner leur voiture.
Leur auto.
Ah oui, ils vont faire toutes les concessionnaires.
Ils vont regarder toutes les brochures sur les voyages à Cuba et République dominicaine. ils se foutent complètement de l'école dans laquelle ils ont dompé, parce qu'ils dompent leurs enfants à partir de 6 mois. Hein? Dans une garderie, ensuite dans une école, ils font confiance au gouvernement. Ils vont même pas voir qu'est-ce qui se passe. Et après ça, ils s'étonnent que leurs enfants décrochent.
C'est un peu le principe de Danny de tantôt. Si le gouvernement, on lui laisse la place, puis en même temps, nous, on ne prend pas nos responsabilités,
responsabiliser les citoyens québécois.
Parce que moi, j'en parlais l'autre fois, moi, c'est une chose qui me fâche, c'est ils disent, il reste 15 000 postes, 15 000 places à combler pour les CPE. Pourquoi faut que ce soit le gouvernement qui les comble, ces 15 000 places-là? Qui leur a demandé ça? Mais tant qu'ils n'auront pas atteint le 15 000 places pour qu'il y ait une place
pour enfants...
Ils
appellent ça CPE, Centre de la petite enfance. Pourquoi qu'on ne dirait pas « dompe à bébé »
Il y en a qui disent « centre pénitentiaire pour enfants ». Mais pourquoi
qu'on est hypocrite, on enrobe nos affaires avec des belles expressions pour les faire passer.
Mais pourquoi les 15 000 dernières places doivent être prises par l'État? Pourquoi ça serait pas le privé qui prendrait?
Ouais.
C'est spécial.
Ça, c'est un autre débat, la privatisation.
Il les laisse au privé. Il se débrouillait avant. Ma tante, elle a gardé des enfants pendant 30 ans.
Ah, mais c'est,
30
c'est
30
ça.
À la maison. Il n'y avait rien de ça, les CPE. Oui. Là.
Non. Puis là, on n'a même pas adressé, en plus, puis là, le temps court, on n'a même pas adressé l'éducation privée versus le public.
Puis on n'a même pas parlé de l'université.
Non, mais...
Quand M. Legault dit qu'il faut diplômer de plus en plus, j'ai vécu ça, moi. Ça voulait dire... Si tu veux diplômer de plus en plus d'étudiants, faut que tu baisses ces critères.
Ouais, c'est ça. Tu baisses les standards. Ouais.
Mais un constat puis une conclusion qu'on pourrait tirer de tout ça, c'est que d'un point de vue d'un rénal, c'est pas super audacieux ce qu'on a vu là de François Legault.
Non, c'est très modeste que M. Legault proteste. Il va pas assez loin.
Il va pas assez loin.
Il adresse pas les problèmes à leurs racines. Il va pas leur... Puis il ose
comme
pas,
on dit en anglais, il va pas au root cause. Là.
Non, puis il ose pas taper sur les clous sur lesquels il faut taper.
Ouais, c'est ça.
Avec courage. Il a pas assez de courage. Et puis, 2020, là, Oubliez ça, hein?
Oubliez ça.
Moi, je mettrais plutôt 2050.
OK.
C'est juste dire, hein, c'est 7 ou 8 pages. Hein.
Si vous allez c'est voir, pas énorme.
Là, parce que les gens qui ne se contentent pas du communiqué de presse, là,
ouais,
allez voir.
C'est ça.
C'est
ouais.
7 à 8 pages, là, son document. Là. C'est ouais. pas très précis.
Il y a des bonnes idées là-dedans.
Il y a des éléments de départ.
C'est des bonnes idées, mais ça ne va pas assez loin.
C'est de valeur parce qu'on le sait que c'est un chantier qu'il faut attaquer. Puis tu parles de 2050, ça c'est si on l'adresse maintenant.
Ouais.
Parce que si on attend encore 10 ans, on est là. Si on va parler
moi,
de 2050.
J'aimerais voir des gens comme mes amis du réseau Liberté Québec faire des contre-propositions à la proposition de M.
Ouais.
Legault.
Ouais. Tu voudrais que le réseau s'implique à ce niveau-là?
Oui, j'aimerais parce que c'est pas un parti politique, mais c'est quand même un mouvement.
Oui. Hein? D'émettre comme ça.
C'est ça.
Et nous, à l'origine, quand on avait pensé au modèle de connaître la suite avant d'en faire une émission, on s'était dit, effectivement, ça prendrait un organisme comme ça qui
fait
un contrepoids médiatique.
C'est les seuls que je vois à l'heure actuelle.
Ben, à l'heure actuelle, oui, effectivement, c'est les
qui
seuls.
Qui seraient d'abord compétents et aussi, je pense, ouverts.
Oui, il y a une question de compétence là-dedans. Ouais. Puis d'être apolitique, de pas être attaché à un parti politique.
C'est ça. Ouais.
Même si les gens vont dire que le
raison. Puis d'avoir ses entrées dans les médias.
Oui.
Oui.
Et je pense que
ça demeurerait pas anonyme
ouais.
s'ils se
Moi, je pense qu'ils sont bien partis, sauf que c'est assez paradoxal parce qu'on a parlé de la montée de la droite au Québec. Rappelez-vous, hein?
Oh, oui.
Quand on a eu cette affaire au mois d'octobre, puis là, c'est quoi qui monte au Québec à l'heure actuelle avec les NPD?
Oh, c'est
hein?
la gauche.
Hein? C'est pas plutôt la gauche?
Non, c'est ça. Faut pas penser que c'est facile puis qu'on est arrivé, là. Vraiment pas.
C'est la fin de l'émission. Merci, Rénal, d'être venu. Écoute, toujours aussi intéressant.
C'est toujours un plaisir de venir vous visiter, les gars.
Ben, garde, c'est un plaisir qui est partagé. Puis, ben, nous autres, on va souhaiter à notre auditoire d'absorber un peu ce qu'on a dit ce soir, d'un point de vue privatisation puis éducation. Fait que si on règle déjà ça va être déjà, je pense, beaucoup pour le Québec.
Puis moi, je m'attends à avoir des courriels sur éliminer le sport de l'école.
Oui,
c'est sûr. Donc, on va vous les refiler, là. Oui, aucun problème.
Elle n'est pas facile à avaler,
vous
celle-là.
On va partir
hein?
un débat, là. Oh,
donc, on invite les gens à venir consulter le site Internet de Connaître la suite et le blog de Rénald. Qui fait beaucoup de billets, comme j'ai dit dernièrement, là, politisés. Puis ça vaut la peine d'être lu parce qu'au Québec, ce qui manque, c'est de la diversité. Puis il faut consommer tous les horizons, toutes les opinions, puis tous les faits qu'on peut consommer au Québec. Ne pas s'en tenir au mainstream.
Au mainstream.
Donc là-dessus, on espère, par notre émission sur une radio que certains diront confidentielle, mais la radio Internet est bien implantée. Et d'ailleurs, on remercie les auditeurs. Donc, si vous voulez réagir par rapport à l'émission de ce soir, on vous invite à nous envoyer un courriel info@connaitrelasuite.com, notre site Internet connaitrelasuite.com. Et Twitter. À partir de là, de toute façon, vous allez trouver nos coordonnées Twitter, Facebook. Donc, là-dessus, bonne semaine tout le monde. On va te souhaiter, Rénal, aussi, de profiter des prochains voyages, parce que là, tu peux nous arriver demain matin avec un voyage à l'autre bout de la planète.
Oui.
Et on va te souhaiter aussi de traverser la fin du monde qui est prévue pour demain. Bonne semaine tout le monde, en espérant vous revoir vendredi prochain sur les ondes du XM 172 et du www.radiochoc.fm.
Bye.